Dans le tempo, c'est déjà l'épisode 54. Le temps file, Daz, le temps file.
Le temps file à une vitesse incroyable.
C'est parti ?
Allez.
Alors, épisode 54. Épisode 54, on rappelle quand même qu'on est dans le tempo, Daz.
Bah, bien sûr, le meilleur podcast du monde.
Qui souhaite bienvenue aux gens. Oui, vas-y.
Musique, hein, qui parle de musique, ouais. mais pas que. Il parle aussi de sciences obscures, de trucs un petit peu underground.
Ouais.
Et je pense que pour cet épisode 54, on est allé loin.
On est allé loin
dans la niche.
C'est vrai.
Très très loin.
Tu sais ce qu'on va faire quand même parce qu'on le fait pas assez, Daz.
Mm-hmm.
On va dire aux gens que vous soyez nouveau, bienvenue, que vous soyez un habitué, abonnez-vous.
Ouais.
Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez
une étoile, cloche,
le pouce, la cloche,
ouais.
Tout ce que vous voulez, mais abonnez-vous, on a besoin de vous. J'essaie de faire le vrai youtubeur,
ouais.
Tu sais, je dis en début de vidéo,
ouais,
tu vas avoir des abonnés, tout ça. C'est important pour la pérennité de ce format, de ce podcast absolument incroyable, absolument passionnant. En parlant de grands youtubeurs, toi, c'est qui tes préférés, toi?
Moi, j'aime beaucoup Léo Grasset.
Ouais. Norman.
Ouais.
Zukairi aussi, non?
Ah, ouais, mais il est pas youtubeur, lui. Il est que Twitcher, je crois.
Non, si, je crois qu'il est à la base youtubeur.
Ah, d'accord. Ouais.
Enfin, les gens problématiques, quoi.
Ouais, tous ces gens avec un casier judiciaire pour à chaque fois des actes vraiment ignobles.
Est-ce que tu sais, moi, dans mes
C'est pas vrai, bien sûr.
Non, ceci est une blague.
Alors attends, j'en profite. Attends.
Une vraie bonne chaîne.
Une vraie bonne chaîne.
Ouais.
Das JDM sur YouTube. Non, mais c'est la mienne. C'est la mienne, et moi, on m'a mis la pression. On m'a dit, mec, il faut que t'aies une chaîne YouTube comme tout le monde. Donc, je me suis obligé.
Ouais, mais tu mets des replays de Twitch dessus.
Non, mais
c'est pas une vraie chaîne YouTube.
Il y aura des shorts et tout, il y aura des trucs.
Ah ouais, si, tu vas faire vraiment des trucs?
Ouais, si.
Ce sera intéressant.
Bah, c'est toujours intéressant. bien sûr. Abonnez-vous, c'est gratuit. Contrairement à Twitch. Mais abonnez-vous aussi sur Twitch.
J'ai une super chaîne à te conseiller, Daz.
Ouais.
Et à nos auditeurs. Ça s'appelle Maté Musique, tu connais?
Ça alors?
C'est dingue, hein?
Ah, mais j'adorerais trop qu'on ait le vidéaste de la chaîne Maté Musique avec nous.
Il est là, Daz.
Non, mais c'est incroyable.
Salut, Paul.
Bonjour.
Il s'agit de Paul Lascabette.
Bonjour, Paul.
Ça va très bien.
Merci d'être avec nous.
Bah, je suis très content d'être là.
Bah écoute, on va parler de ton travail parce que alors monsieur a une chaîne YouTube effectivement qui s'appelle Maté Musique où comme son nom l'indique, il mêle mathématiques, la mathématique, les mathématiques, peu importe, j'ai envie de dire, avec la musique. Mais tu fais
ça tombe bien.
Ouais.
Parce que si tu faisais autre chose, on comprendrait pas.
Alors que Maté Musique, le nom serait bizarre. En vrai.
Ouais, c'est sûr.
Paul, toi, t'as une formation justement en mathématiques à la base, à l'école normale supérieure. Tu as ensuite intégré le monde de la recherche musicale, puisque tu viens de déposer une thèse auprès de l'IRCAM et de la Sorbonne. Et globalement, ton travail justement consiste à essayer d'analyser les structures de la musique, les motifs qu'on peut retrouver, comment ensuite on la joue d'ailleurs, en fonction des structures spécifiques, etc. Et c'est ton domaine de recherche.
Oui, oui, c'est ça. Bah, moi, en fait, mon travail, c'est... C'est juste de comprendre la musique avec, ouais, avec des outils de mathématiques et d'informatique, quoi.
Et c'est un truc justement que tu partages sur ta chaîne YouTube, alors de manière plus simple que dans ta thèse, j'imagine.
Exactement.
Mais c'est absolument passionnant. Tu as assez peu de vidéos, mais qui sont à chaque fois très fouillées, très enrichissantes. On a regardé ensemble,
ouais.
Daz, absolument passionnant sur, voilà, par exemple sur le rythme. Moi j'avoue que c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Autant je pense que j'ai pas une oreille trop dégueulasse, mais repérer les rythmes, les motifs rythmiques, la métrique spécifique d'un morceau, parfois c'est très difficile.
Oui.
En fait tu les repères mais c'est difficile de...
Bah, tu sais qu'il y a un truc bizarre, mais mettre les mots exacts dessus, c'est compliqué. T'étais parti un peu de ce constat en disant je peux peut-être aider les gens ou...
Mais alors je pense qu'il y a quelque chose qui peut te rassurer, c'est qu'en fait ça s'entraîne.
Ouais.
C'est-à-dire que moi il y a 2-3 ans j'y arrivais beaucoup moins bien.
Mmh.
Et maintenant en fait c'est au tac au tac, quoi. Ça me pose plus aucun souci. Et en fait, s'entraîner à écouter le rythme, c'est quelque chose qui se travaille, quoi.
C'est ce qui est cool.
C'est rassurant pour tous les gens qui
n'ont
aucun sens du rythme.
Non, mais moi, je sens vraiment une différence. Il y a vraiment eu un avant et un après.
Mais c'est quoi, t'as décidé, tu t'es dit, allez, aujourd'hui, je fais attention, ou il y a quelque chose à entraîner?
Non. Bah ça m'amuse, quoi. Moi, en gros, souvent, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique et j'essaye de comprendre ce qui se passe avec mes outils à moi.
Ouais.
Qui sont
c'est vraiment un truc de matheux, ça.
Ouais, voilà. Et puis du coup vu que je viens du domaine des maths, en maths on travaille beaucoup avec des symboles, des représentations un petit peu originales. Du coup j'essaye de intuitivement, en fait j'applique ça quand je songe à un stylo et un carnet, et puis je fais des gribouillis.
Ouais.
Et en fait puis à force de le faire tu fais et puis au bout d'un moment tu y arrives.
Ça devient naturel.
Okay. C'est naturel. Mais après j'ai pas du temps, hein. C'est pas
Ça demande de l'entraînement, clairement.
Mais ça demande de l'entraînement, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus simple que de comprendre l'harmonie, le rythme, et surtout de le voir. C'est pour ça qu'en fait je parle beaucoup plus du rythme que de l'harmonie. Mm-hmm. J'ai l'impression que le rythme c'est beaucoup plus visuel que l'harmonie.
Okay.
et on le voit plus facilement parce qu'en fait on a le temps qui défile. Donc par exemple on peut avoir une échelle temporelle et en fait à partir de là on peut voir dès qu'il y a un impact musical et du coup c'est beaucoup plus simple à comprendre. En tout cas, moi, j'arrive mieux à le transmettre que l'harmonie.
Tu conseilles de plutôt te concentrer sur les batteurs derrière pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau rythmique dans un morceau.
C'est-à-dire, est-ce que je me concentre sur les batteurs
ça en tout cas, est-ce que tu conseilles aux gens pour essayer de comprendre un peu la structure
Non, pas forcément. Non, juste d'écouter le morceau et de d'entendre ce qu'on peut entendre, quoi. Donc, faut. Donc moi, je me base sur certains critères. Donc par exemple, dans mon travail, donc justement, on parlait de la thèse. On apprend ce qui est important, les critères musicaux qui sont par exemple la répétition, c'est un truc qui est super important. En fait, quand on a des motifs qui se répètent dans la musique, ça nous donne une grosse indication déjà par exemple sur la métrique et sur d'autres choses, sur les suites d'accords, sur plein de choses. Et en fait, à force d'écouter et puis de faire attention, en fait, je pense que surtout on développe une oreille qui est aussi un petit peu dès que j'écoute de la morceau intuitif, même sans faire exprès, je vais entendre des trucs, quoi. Mais après, bon,
ça se travaille.
Oui, ça se travaille.
C'est rassurant, effectivement.
Ça se travaille.
Bon, vous l'aurez compris, dans cette émission, on va essayer de parler, la façon dont est structurée la musique avec une approche, certes, mathématique, mais promis, ça va pas être chiant. On va essayer, en tout cas, les vidéos de Paul ne le sont pas. Donc, on va essayer de nous ne pas l'être, quand même.
On va essayer, mais c'est pas garanti, parce que.
Non, c'est pas garanti.
On va essayer.
Mais c'est passionnant parce que quand on écoute de la musique, on sait qu'il se passe plein de choses. Notre oreille peut distinguer parfois des aspects techniques au niveau du mix, au niveau mélodique, harmonique, etc. Et comme tu le dis, ça s'entraîne et juste avoir conscience de ce qui se passe, et c'est ce que nous apporte Paul justement à travers son travail, etc. Et ça enrichit, je trouve, notre approche et notre écoute musicale.
C'est ça que je trouve intéressant, c'est de conscientiser le truc.
Grave.
Parce que moi, la question que je me pose, notamment quand on regarde les vidéos que tu as fait sur Meshuggah ou même tu parles d'Outkast et de Eya à un moment donné dans une de tes vidéos. Et la question, c'est, est-ce que les gars qui ont fait la musique...
On avait conscience ou pas?
Ils se sont dit, alors là on va tous les... On va se les faire. Là, alors, tu vois, là, tac, je la coupe plus tôt, ils vont rien comprendre.
C'est une excellente question. Tu sais
moi, j'ai la réponse. Hein,
on va en parler. Ce que je propose, c'est juste, on divise un peu nos discussions en deux parties. Peut-être au début, justement, ce fameux lien entre mathématiques et musique, le côté structure, etc. Et on s'arrêtera peut-être sur quelques exemples, typiquement Outkast, Meshuggah. On peut s'écouter peut-être un morceau sans spoiler tes vidéos, mais comme ça, pour donner envie d'aller les voir derrière. Et puis dans un deuxième temps, peut-être parce que c'est un univers que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est le fait qu'il y a de la recherche dans le domaine musical, qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, dont c'est le métier, d'essayer de comprendre la musique, entre guillemets, notamment au sein de l'IRCAM, qui est une institution dont on parlera, puisque tu y travailles aussi. Bref, on se concentrera ça dans une deuxième partie si ça te va. Mais déjà, premier truc, là, parce que ça paraît bizarre quand même, comment quand on vient des maths, tu vois, c'est quand même... tu sais, parfois, il existe une espèce pas de confrontation, mais tu sais, on se dit le domaine des arts, c'est un peu moins terre à terre que le truc. C'est les maths, ça paraît chiant, les maths. Alors justement, l'artistique, c'est on se fait plaisir, c'est libre, il y a moins de règles peut-être. Comment, en venant des maths, on s'intéresse à la musique et on se dit, il y a un lien peut-être entre les deux
C'est très personnel, en fait, comme intérêt, en tout cas. Enfin, je pense que, du coup, moi, personnellement, si je me suis intéressé aux maths et à la musique, c'est parce qu'en fait, j'ai fait des maths et de la musique dans ma vie. Et je pense que les gens avec qui je travaille, qui font aussi, du coup, des sciences appliquées à la musique, je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont un parcours scientifique parce que voilà, en France, c'est quelque chose qui est valorisé de faire des sciences, et qui sont aussi musiciens à côté, enfin musiciens ou qui adorent la musique, quoi. Et du coup, comment on en arrive à faire les deux? Je pense que c'est... Après, évidemment, il y a aussi le fruit du hasard, mais moi, en tout cas, personnellement, donc j'ai fait de la musique, j'en ai toujours fait, quoi. Et les maths, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé aussi. Et du coup, quand j'ai appris, je sais plus, c'était en licence, je crois... j'ai appris justement que l'existence de l'IRCAM, donc là où je travaille, et j'ai appris que du coup que c'était possible vraiment de travailler sur les deux en même temps, et puis même d'avoir des liens, qu'il y avait des liens entre ces deux domaines. Personnellement, moi, ça m'a direct plu, et je pense que du coup, comment on fait pour répondre à la question de base, c'est comment on fait pour mélanger les deux, je pense qu'en fait c'est très personnel, et c'est des profils, à chaque fois c'est des profils qui sont très originaux, des profils qui aiment bien justement les sciences et l'art, quoi.
Et des gros geeks en général.
Et des gros geeks.
On a vraiment tendance à opposer les deux quand même.
Oui, complètement. L'art est... Mais après dans les mathématiques à un certain niveau, il y a beaucoup de gens, et moi y compris, qui vont dire qu'il faut une certaine créativité, quoi. Moi, dans ce que je fais au quotidien, donc je fais plus des sciences pures que de la musique, quoi, parce que je fais des sciences appliquées à la musique, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un processus qui est très créatif, quoi. Okay. C'est-à-dire que j'ai besoin de quand par exemple je compose de la la musique ou quand je fais de la musique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très similaire, quoi. Enfin, je sens que j'ai besoin de créativité, quoi. Et je sens que quand je fais ça, c'est compliqué de faire de la musique et des sciences dans la même journée, quoi.
C'est quoi ta pratique musicale, justement, parce que tu dis ouais. J'aime les maths, mais je fais de la musique aussi en parallèle.
Donc, moi, c'est la guitare, quoi. Donc, j'ai commencé j'ai commencé quand j'avais 5 ou 6 ans, je crois, la guitare. Donc ça remonte, c'est une longue histoire, quoi. Et avant j'ai fait du triangle apparemment, donc j'ai pas de souvenir de ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, mais surtout mon instrument, voilà, c'est la guitare, la basse et puis un peu de MAO. Et après évidemment, du coup, avec la thèse et la vulgarisation, bah j'ai moins le temps d'en faire, quoi. Et puis c'est ce que je dis, c'est qu'en fait la thèse ça me pompe mon énergie créative, en fait.
Ouais.
Donc en fait, est-ce que les maths c'est pas créatif? Bah moi je suis pas si d'accord. Je trouve que quand même il y a, enfin en tout cas, quand on en fait un certain niveau, c'est sûr, quand on en fait au niveau peut-être collège ou mais même en fait, même maintenant il y a des preuves, je sais pas, au lycée, au collège, il y a des trucs moi que je trouve super créatifs, en fait, hein. Enfin il y a des trucs que je trouve super intéressants.
Ah, et ça c'est très subjectif. Ouais,
on va être tous d'accord, mais moi il y a des trucs que je trouve très beaux, et il y a des solutions à certains exercices ou des preuves à certains théorèmes qui sont en fait où la personne qui a développé ça, enfin elle a eu recours à de la création, quoi. En fait, ouais. C'est quelque chose qui est très similaire. Et moi, du coup, depuis que je suis dans la recherche, en fait, je fais beaucoup moins de musique parce que je sens que ça me pompe mon énergie créative, quoi. Donc ça me fait de la peine parce que en fait, j'adore ça. J'adore faire de la musique. Mais donc ouais, non. Faire. Ouais, on peut pas tout faire.
T'avais conscience, toi, Daz, que on peut avoir un angle entre guillemets mathématique pour observer la musique, pour la comprendre?
Bah, je trouve beaucoup plus depuis quelques années.
Ouais.
Où tu sais, la musique et notamment tout ce qui est hitmaker, etc. C'est un processus. En fait, t'as vraiment un process créatif.
Une recette.
Ouais, qui est très normé. Tu vois, avec.
C'est comme ça que tu lis, ouais, le côté mathématique.
Ah bah ouais. Enfin, moi, depuis que j'ai découvert la quantise sur la MPC, en fait.
Donc la quantise, c'est le fait de quantifier et ça remet en fait tes notes dans le bon rythme.
Ça recale.
Tu les as jouées comme ça.
C'est-à-dire que pendant un moment, il fallait justement que, notamment dans le beatmaking, il fallait que ça soit droit. Mmh. Et donc la quantise, c'était super parce que ça veut dire que toi tu jouais en fait ta boucle de batterie n'importe comment, et puis
si t'étais un peu à côté,
voilà, ça la remettait dans les temps. Après tu pouvais choisir autant 8e, 16e, 32e de temps si tu veux, tu vois, mais et effectivement ce qui est marrant, c'est que milieu des années 2000 jusqu'à 2015 à peu près, c'était l'inverse. On t'expliquait avec des mecs comme Jay-Z, etc., que au contraire, il fallait enlever la quantise et laisser le côté organique, tu vois. Mmh. Et tu te retrouvais des fois avec justement
une forme de groove, effectivement.
Ouais.
Non,
bah, complètement, ouais. Tu te retrouves avec des sections rythmiques qui tombaient pas exactement sur la mesure, machin, etc. Mais en fait, les gens te disaient, ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Mmh. Mais il n'empêche que dès qu'on a commencé à sortir tous les outils de MAO, pour moi, oui, déjà, ça a permis à des gens qui n'avaient pas la connaissance académique de la musique au sens solfège pratique de faire des trucs qui s'entendaient. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire, tu touches pas un piano, tu places comme on en parlait avec Fishback, elle place ses petites briques
au piano
avec sa
roll,
souris,
voilà.
Ouais. Et en fait, au final, t'arrives à faire des trucs qui se tiennent, des mélodies, etc. Donc, ouais, il y a un côté, enfin, l'informatique appliquée à la musique. Forcément, c'est mathématique et.
Mais j'avais une autre intuition. Alors, Daz, t'avais toi ce côté, les maths, tu les vois de cette manière, enfin, ouais. Dans la musique, à travers l'informatique, notamment, la MAO, etc., les logiciels ou les outils qui permettent tout d'un coup de recaler des trucs, etc. Moi, mon autre intuition, en fait, j'avais jamais conscientisé le rapport maths, musique, etc. Mais c'est vrai que quand les quelques rares bases de solfège que j'ai, je vois très bien qu'en fait, il y a quand même, si on divise le temps de manière égale, etc., et que c'est très structuré de base, et qu'il y a un côté extrêmement mathématique, pragmatique, pour comprendre les notes, les blanches, les noires, les croches, etc.
Bah, tu comptes, en fait, tu comptes tout le temps.
C'est vrai, c'est ça. Oui, d'ailleurs, tu comptes quand tu fais le rythme.
Ouais.
1, 2, 3, 4, etc.
Tu comptes tout.
Les maths sont naturelles. Mais c'est pas un truc qu'on conscientise forcément. Alors qu'en fait, c'est là, dès la base, presque, dès qu'on a commencé à écrire
en fait,
la musique.
Oui, bah, c'est ça, en fait. Là, on a un gros héritage, en fait, de la musique qui vient de l'écriture sous une forme de partition. Et en fait, dès cette écriture-là, en fait, on peut faire plein de liens justement avec les maths, parce que les symboles utilisés, bah, tu l'as dit pour par exemple la ronde, la blanche, la noire, etc., etc. Chaque fois, on a des rapports, on divise par deux, mm-hmm. Et puis pareil pour la hauteur des notes. En fait, on peut hyper facilement représenter les notes par décrire les notes, en tout cas par des objets mathématiques entre guillemets, la durée, le pitch et tout ça et tout ça. Et grâce à ça, en fait, bah, du coup, le côté moderne de la partition, c'est ce que tu disais, c'est avec le piano roll, quoi. Ouais. C'est le fait d'avoir les notes dans des grilles. Et en fait, ça, on est dans un espace en 2D et puis on place nos points et c'est des points qui sont pas, c'est des points qui ont une position très claire parce que voilà, on sait que combien de temps est dur. À chaque fois, c'est des nombres qui sont 1/2, 2, 1. Le pitch, voilà, on sait exactement la hauteur.
Avec les tons.
Donc, ouais, c'est sûr qu'à partir de là, on peut réussir à trouver des outils pour analyser ces données-là, quoi. Du moment que les données, en fait, elles peuvent être décrites de manière très simple par des points et tout ça. Voilà, ça permet à des gars comme moi de faire des choses et d'analyser le truc, quoi.
Est-ce que cette application, enfin ce regard mathématique sur la musique, il est surtout valable pour la musique dite savante, parce que justement elle est écrite, il y a tout un, c'est très codifié en fait la façon dont on peut la produire, la noter, etc. Mais est-ce que on peut l'appliquer aussi aux musiques populaires de la même manière?
Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Bah en fait la musique populaire c'est très codifié aussi, donc ouais. En fait. On a des suites d'accords qui reviennent, on a un rythme qui souvent c'est les mêmes. Bah, je sais pas, mais dans mes vidéos, par exemple, je parle du Tressio qui, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. C'est un rythme, en fait, qui est utilisé par énormément de musique, enfin, dans énormément de musique. Et, donc oui, non, ça s'applique. Enfin, en tout cas, il y a des, il y a des styles de musique qui, auxquels ça va être plus simple d'appliquer certaines, un regard mathématique, disons. Mais les styles où ça va être compliqué, je pense, c'est les styles qui sont très ambiants, qui se basent essentiellement sur le timbre.
Ok.
Je sais pas, par exemple, je pense à un artiste, je pense à Gas,
on peut écouter, hein, si tu veux.
Non, c'est ouais, pas, okay. Pas,
ouais, c'est ouais. En tout cas, c'est quelqu'un.
Ouais, ouais. C'est juste des sons constants, en fait. Okay. Bah là, du coup, tout se base sur le timbre, sur la production et tout ça.
Là, direct. Pour l'analyser, c'est plus difficile.
Bah là, c'est plus, parce que là, on a plus de symboles, on a plus de cet aspect rythmique et harmonique qu'il y avait avant. Donc il y a des musiques, ouais, qui sont plus compliqué à analyser, voilà, parce que la musique, en fait, c'est ce que, en fait, voilà, c'est là, je suis en train un peu de parler de ma conclusion de thèse, justement, okay. De ce que j'ai mis dans la
Spoil, spoiler,
je spoil, moi j'ai le droit, c'est pour le public, donc c'est public, hein, la recherche, et du coup, je dis qu'en fait, dans la musique, ma thèse, je commence et je dis, moi, l'affirmation, la musique, c'est des maths, c'est un truc que j'ai entendu, en fait, hyper souvent, en fait, ouais. C'est un truc, et en fait, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que il y a d'autres arts comme, je sais pas, le cinéma, la littérature. On dit pas le cinéma, c'est des maths. Enfin, c'est on peut pas résumer le scénario à des formules mathématiques, quoi.
Pourtant, on a
des recettes aussi pour écrire.
Au niveau de la création, tu vois, notamment quand Netflix est arrivé et qu'ils ont produit House of Cards, ils avaient dit que cette série-là était vraiment produite par l'algorithme, c'est-à-dire qu'ils ont analysé ce que les gens aimaient. Et ils ont dit, OK, les gens, ils aiment à 20% du thriller, à 10% des embrouilles politiques, des trucs sentimentaux, etc. Et ils l'ont écrit, ils l'ont écrit en suivant précisément ce truc-là, et ça a cartonné comme, avec le succès qu'on connaît, quoi. Donc,
Et c'est vrai que naturellement, ça vient moins à l'idée que la musique.
Ouais. Et surtout, le fait de, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir la partition et d'avoir des symboles qui peuvent être très facilement décrits, en fait, par des objets mathématiques, en tout cas, en fait, ça permet justement d'appliquer toute cette théorie. Et en fait, ce que je dis donc dans la conclusion, c'est que, mais en fait, la musique, c'est pas du tout que ça. Enfin, la musique, il y a un contexte politique, il y a aussi un contexte social. Je sais pas, on va écouter ce que les gens écoutent. Enfin, ce que quand on est dans un groupe d'amis, on va avoir tendance à écouter aussi un peu ce qu'ils écoutent pour se mettre dans le groupe. Il y a des gens qui font passer un message politique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est avec le texte, parce qu'on compare avec le script dans le cinéma. Bon, le texte, ça, c'est un truc, j'imagine, qui échappe
important.
Un peu plus.
Bah, complètement. Ouais. Et c'est un truc qui est super important. Enfin, je sais pas,
il y a des schémas aussi, tu vois.
Certainement, il y a des
schémas
recettes.
Dream, des trucs.
Oui, mais par exemple, si on, je sais pas, on prend Rage Against the Machine, c'est un groupe qui a des idées politiques, bah. Je sais pas, tu vas pas dire que c'est une formule, tu vas pas compter.
Sur le fond, mais sur la façon, par contre,
t'as raison.
De poser ce texte.
De scander, de le mettre dans le rythme.
Pour que justement ça rentre dans la tête des gens.
On passe sous une forme. Rythmique, quoi.
Sur le message. Je suis d'accord.
Et en fait, donc, la musique, et il y a aussi la production, c'est-à-dire la qualité du son. Enfin, par exemple, je sais pas, on prend le dernier album Daft Punk, Ram, il est hyper bien produit. Mm-hmm. Et moi, quand j'écoute ça, en fait, j'aime bien écouter cet album en partie
parce qu'il est bien produit,
quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc pareil, c'est hyper compliqué. Enfin, tu peux pas décrire ça avec des simplement, en tout cas, de manière. Donc voilà, donc en fait, la musique, c'est très riche. mais il se trouve qu'il y a des choses qu'on peut analyser en fait avec les mathématiques. Donc comme par exemple tu parlais de la musique pop ou de la musique savante, bah il y a des choses qu'on peut comprendre ou qu'on peut décrire en tout cas facilement avec des objets mathématiques, mais il y a d'autres trucs qui sont plus compliqués, quoi.
Il y a des outils intéressants dans tes vidéos qui, justement, je trouve que c'est une bonne approche, et d'ailleurs c'est tes premières vidéos en général, pour faire cette interface là, entre mathématiques et musique, c'est de partir de la géométrie.
Oui, complètement.
Et dire qu'en fait, quand on écoute des sons, on peut tout de suite en déduire des formes de schémas. Alors, tu as à la fois des schémas cycliques, tu as aussi un arbre, comme ça, un arbre rythmique que tu proposes. Peut-être que tu peux nous en parler un peu de ces outils et pourquoi ils sont utiles.
Moi déjà, je trouve ça joli, quoi. je fais ça parce que voilà, je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça très beau en fait de mettre la musique d'un point de vue visuel, quoi.
Comment on le fait alors
Comment on fait?
Ouais.
Ah, c'est des lignes de code.
D'accord.
Enfin, c'est moi que j'ai fait ça comme ça.
Ouais. Mais tu vois, comment on crée ce schéma, par exemple.
Bah, en gros, il y a plusieurs outils. Donc, en gros, les deux représentations principales que j'utilise, c'est la représentation circulaire, donc avec un cercle, et les arbres rythmiques, donc c'est deux trucs différents. On va commencer par le cercle, peut-être.
Ouais.
Bah, le cercle, en gros, il y a déjà, on peut représenter, par exemple, on imagine une horloge, et puis on représente, en fait, le rythme dans le cercle, et en fait, il se trouve que le rythme, c'est cyclique. Enfin, souvent, quand on a un morceau, très souvent, en fait, on a un rythme qui revient en boucle, parce que la musique,
la répétition, c'est
la base, quoi, dans la musique. C'est disons qu'on est, on aime bien la répétition, quoi. Et en fait, à partir de là, on peut représenter notre rythme sur un cercle. Et en fait,
c'est-à-dire que tu mets chaque tempo, enfin chaque marqueur comme ça temporel autour du cercle, c'est
ouais,
ça?
Ouais. En fait, on est sur le cercle, donc on est sur le.
C'est-à-dire que le cercle, il représente quoi? Une mesure?
Une horloge. On imagine que c'est une horloge qui D'accord. tourne un peu plus vite.
Et, okay. et au lieu que ça soit l'heure qui soit indiquée à chaque fois, c'est un temps.
Voilà, c'est un temps.
De la mesure.
Imaginons, on a un rythme, on a trois pulsations. Mm-hmm. On va avoir trois points sur le cercle.
D'accord.
Et en fait,
c'est-à-dire qu'au troisième, on revient à zéro.
Voilà, on revient à zéro, ouais. On revient, donc on reboucle, en fait, on reboucle. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, imaginons, on va rester avec les trois pulsations. Imaginons, on a trois pulsations de manière égale, on est en 3-4. Donc, je sais pas, c'est 1, 1, 1, 1. Voilà, on a un truc comme ça. Enfin, on a tout juste. Voilà. En fait, on va avoir un triangle équilatéral. Ouais. Mais si on a. Si la proportion des temps, en fait, change, en fait, le triangle, il se déforme. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de regarder les différents rythmes. Donc voilà, donc là, je parle de triangle. Mais par exemple, dans mes vidéos, il y a des rythmes avec 5 pulsations. Donc là, on peut avoir un pentagone, par exemple. Voilà, il y a plein de formes comme ça que je trouve assez jolies.
Ça met en image, effectivement.
Ah, ben, complètement, ouais, complètement. Et en fait, il y a un chercheur, c'est le chercheur dont je parle dans mes deux premières vidéos, en fait, qui s'appelle Godfrey Toussaint. Et lui, en fait, il est parti du constat. Il s'est dit, OK, on va représenter chaque rythme par un polygone dans le cercle. Donc, par exemple, il y a le pentagone, il y a le triangle, tout ça. Et en fait, on va étudier la propriété des polygones. Par exemple, est-ce qu'il y a une symétrie? Je vais pas rentrer trop dans les détails. Est-ce qu'il y a une symétrie, par exemple? Mais il y a une bonne dizaine de propriétés comme ça. Et en fait, le but, c'était de mettre un mot, tu vois, mathématique sur certaines propriétés, par exemple la symétrie, d'autres choses, quoi. Et en fait, à partir de là, il décrit un rythme et il permet de dire plus le rythme il va respecter de propriétés, plus il va être bien. Et en fait, du coup, il a pu classer un peu les rythmes et dire qu'il y en avait qui étaient meilleur que d'autres, entre guillemets, et lui qui qualifie meilleur, c'est plus utilisé, quoi. Ouais, les rythmes qui sont les plus utilisés, en fait, il y en a qui respectent
on retrouve des formes spécifiques, plus efficaces que d'autres.
Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des propriétés qui sont, par exemple, la symétrie, la périodicité, ce genre de choses, le fait d'être bien réparti.
Tu veux dire que, alors là, on parle de rythme jusque-là, parce que je sais qu'on peut l'appliquer à la mélodie aussi.
Ouais, complètement,
à
la mélodie, ouais, c'est
mais,
pareil.
Mais on prend le rythme, et à partir du moment où une belle figure, entre guillemets, se détache, eh bien, globalement, on sait que c'est des rythmes qui vont être plutôt populaires, plutôt appréciés, etc.
En fait, le problème, c'est de comment caractérise une belle forme. En fait, lui, il a listé certaines propriétés. Et voilà, puis après, il en a déduit que.
Et ça veut dire que, par exemple, tu peux dire, oui, le pentagone, c'est mieux que l'heptagone, par exemple.
En tout cas, il est plus utilisé.
oui, voilà. Pour faire quoi, oui. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça et c'est très nuancé aussi.
Mais alors, excuse-moi, ça veut dire que. Si tu appliques le truc avec la même figure géométrique, avec la même périodicité, etc., ça veut dire que de facto, t'as un banger, en fait.
Non, parce que, en fait, tout le monde fait ça inconsciemment, en fait.
Ouais. Ça
permet de le visualiser.
Voilà,
si toi, t'es capable de les catégoriser, de les classer en plus par rapport au niveau avec lequel ça s'approche de ce qu'on considère comme la perfection, c'est-à-dire que si toi, sans connaissance musicale, tu t'attelles juste à essayer de recréer le truc à partir de cette image-là, t'es capable de faire un morceau que tout le monde va kiffer.
Non,
je veux dire, sans aucune connaissance musicale.
T'es capable
musicale.
De faire un morceau qui tient la route, on va dire ça.
Bah, c'est déjà pas mal.
Ouais, voilà.
C'est déjà pas mal.
Parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui viennent de l'interprétation, qui viennent de. Parce qu'on parlait du timbre, de la personnalité de celui qui l'a fait. Ouais. Donc il y a énormément de choix, en fait. Je sais pas, le choix des instruments, le choix des. Comment.
Oui, mais maintenant que tout le monde, en fait, se promène avec des laptops où il y a 83 gigas ouais. De VST dedans.
Moi, ce que. Ouais, voilà. C'est que c'est des clés, en fait, c'est ça, pour essayer de bah, on va dire. Ouais, ça peut être des clés pour fabriquer de la musique.
J'ai des exemples précis qu'on voit dans tes vidéos d'ailleurs. Alors déjà, tu peux déjà t'amuser à juste, tu sais, tu prends ce cercle, effectivement, tu mets les temps, les marqués, puis après tu peux créer pourquoi pas ta forme et voir ce que ça donne, si effectivement c'est musical ou pas. Déjà, mm-hmm. ça peut être une utilisation, j'imagine. Et alors l'autre truc que j'ai trouvé absolument génial, c'est de dire, ok, ça on peut le faire au niveau du rythme. On divise effectivement le cercle, là, comme si c'était des heures, et puis là on met les marqueurs de voilà pour faire toute sa mesure, puis ensuite on fait les formes. Ça donne une forme, en tout cas, quand on a tel rythme. Mais on peut faire la même chose avec les notes.
Oui, complètement. Ouais.
Et là, donc, on divise. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de reproduire, parce que ça va créer aussi
un schéma,
et essayer et voir à quel rythme ça correspond. Est-ce que, on peut même s'amuser, on peut même être créatif, en fait, de cette manière, en visualisant la musique. Je trouvais ça
incroyable. Oui, en fait, on boucle, c'est on fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et on revient sur le do. En fait, mmh. voilà, on dit que toutes les octaves, ça s'appelle quotienté à l'octave. Voilà. Et en fait oui, donc il y a aussi des, si on regarde les gammes, les accords et tout, il y a aussi des formes. Et en fait il se trouve qu'il y a des propriétés qui sont similaires entre les deux, et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes okay. qu'on peut retrouver des formes communes. Par exemple, une des propriétés, c'est le fait d'avoir les points, c'est ce que j'appelle les rythmes cliniens, c'est le fait d'avoir les enfin ce que j'appelle ce que Gautreau et tout ça appelle les rythmes cliniens. Le fait d'avoir les points les espacés en fait, le fait de pas avoir les points concentrés sur un endroit du cercle.
OK, quoi. Donc imaginons j'ai trois notes, donc elles vont sur l'ensemble là de sur la gamme de do.
Il faut pas voilà. faut pas ouais. les
elle
grouper.
Il faut pas voilà, qu'elles se rapprochent. Ouais. Non, je dis, on dit une bêtise.
Ouais, non, si. Disons que ça marche plus pour mais pour trois notes, ça va être un accord pas ouf.
Okay. c'est quoi le
en fait ce qui a remarqué, c'est que lui, ce qu'il a dit dans un papier, c'est que la gamme, en fait, lui, s'il avait 7 notes parmi ses 12, ouais. en fait les 7 notes, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, dans les notes du piano par rapport aux notes noires, en fait elles sont le maximalement espacées les unes par rapport aux autres, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que donc on parlait du piano roll qu'on a tous utilisé maintenant mm-hmm. dans les logiciels de MAO. Pourquoi il n'y a pas justement cette représentation circulaire?
Pourquoi
il y a
pas? Très bien, parce que il manque quelqu'un pour la développer. Et en fait,
voilà, ça y est, t'as trouvé ce qui allait être ta carrière derrière.
Bah en fait, justement, dans ma prochaine vidéo, ce que j'ai fait les derniers mois, c'est que j'ai essayé de développer avec d'autres personnes. Un logiciel justement qui permet de créer un rythme avec la représentation circulaire, quoi. Donc ça existe déjà. En fait, moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui soit très simple. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de professeurs qui m'ont demandé comment je peux faire pour faire, j'aimerais bien faire une activité en fait avec mes élèves. Est-ce que comment tu fais tes animations? Le problème, c'est que moi, je code tout moi-même et je peux pas leur demander de faire ça. Et est-ce qu'il y a un logiciel qui existe? Et en fait, il y en a peut-être, mais je les trouve pas hyper intuitifs, quoi. Et du coup, moi, je voulais faire le mien. Et du coup, en fait, justement, dans la prochaine vidéo, justement, ce sera sur cette représentation circulaire. Mmh. Et en fait, du coup, on peut appliquer, on peut dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut mettre des formes et on peut les entendre. Et on peut, par exemple, on peut prendre une forme, on peut la tourner un petit peu, et puis on voit que ça sonne différemment, mais on garde quand même une certaine signature. Et en fait, moi, je trouve que c'est une approche très intéressante, en fait. Je trouve que c'est une approche qui est très différente du solfège, par exemple. Mm-hmm. Et parce qu'en fait, là, direct, je trouve ça beaucoup plus visuel. Après, je trouve ça plus visuel parce que peut-être je suis plus habitué aussi. Mais il se trouve que, voilà, je trouve ça, bon, et puis en plus, je trouve ça joli, quoi.
Ouais. C'est ça qui est très marrant, c'est que, par exemple, moi, je travaille plus sur des machines, plutôt que sur un séquenceur. Parce que justement, voir, la grille horizontale qui part de zéro jusqu'à l'infini, moi ça me terrifie en fait. Tu vois, j'aime bien justement avoir un truc où t'as des petites séquences.
Tu pourrais essayer aussi les trackers, c'est vertical. Je sais pas si ça changerait quelque chose pour
non,
toi.
Non, ça serait pareil, avec en plus le vertige, tu vois. Mais avoir un truc rond, je pense que même en termes d'approche, c'est moins intimidant, je pense.
Ça peut être intéressant, effectivement. Mais en tout cas, le côté visuel, on peut le retrouver même avec les piano rolls actuels, ou alors sur les formes d'ondes. J'ai déjà vu des gens jouer là-dessus, tu sais, écrire un mot avec le piano roll et voir juste qu'est-ce que ça donne, tu vois, si je si je fais telle forme, etc. Donc,
oui, en plaçant les...
Exactement, ouais. Ça peut exister, mais en tout cas pas de manière aussi intuitive que le modèle dont tu parles, effectivement.
Non, c'est sûr. Après, moi je pense que le piano roll, en fait, on va dire qu'on est parti de la partition, donc ça c'était il y a longtemps, quoi. Mm-hmm. Et en fait, le piano roll, c'est un peu une version, c'est un peu la même version que la partition, parce qu'en fait, on a le temps qui est l'axe
horizontal
et les hauteurs ou le pitch. Ouais. Et en fait, du coup, c'est un petit peu la même chose. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. C'est quand même pas mal le piano roll, ça simplifie.
Alors, ça marche. Ouais.
C'est quand même pas mal. Et du coup, c'est une version, disons. Très simpliste, enfin pas simpliste, mais très voilà, c'est un quadrillage, quoi, ouais. et en fait c'est une sorte de partition, quoi.
Ouais.
Donc c'est quand même.
Est-ce que t'as des, enfin je sais que tu en as d'ailleurs, mais tu peux nous dire quels sont tes favoris, des exemples de morceaux dont la structure rythmique est très particulière. Alors on l'observe évidemment avec les schémas, enfin toi tu t'appuies en tout cas dans tes vidéos pour le démontrer avec tes schémas, on se dit ah ouais effectivement il y a un truc. En tout cas nous, quand juste à l'écoute, tu vois, c'est compliqué pour nous de le repérer. Par contre, dès que tout de suite on le met en visuel, on se dit ah ouais, effectivement il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu as quelques exemples de morceaux
qui,
ouais, on pourrait se passer un extrait et tu nous racontes ce qui se passe, tu vois.
Ouais, plein de morceaux que j'ai évoqué dans mes vidéos.
Daz, il y en a un, toi, qui te...
Bah, on parlait de Eya, ouais, d'Outcast, où en fait, c'est marrant, mais avant de voir la vidéo, je m'étais même pas posé la question.
Ah oui, mais c'est le but du morceau, quand même.
Ouais.
Le but, c'est que ça sonne... Moi, en fait, ce que j'aime bien dans Eya, vraiment, je le trouve trop bien, ce morceau. Et en plus, le texte est super intéressant aussi. Mm-hmm. Et ce que je trouve trop bien, c'est qu'en fait, on l'écoute et on le remarque
pas ce qui se passe. Alors, on nous dit pas ce qui se passe, on s'écoute un extrait et après, on en parle. Eya, donc, de Outcast. 1, 2, 3, thank God. Le refrain va arriver.
Ouais, c'est au refrain. Bon. C'est ça qui est marrant, c'est que moi je l'écoute et je dis bah ouais, c'est une chanson,
c'est un
quoi.
Morceau normal, ouais, y a rien qui te dérange, qui te...
C'est même un morceau super cool, quoi.
Bah ouais, et pourtant il y a un truc qui se passe. On n'est pas sur du 4-4 classique.
On peut l'écrire sur du 4-4, mais la manière la plus logique de l'écrire, en fait, c'est en gros, on a 4 accords dans ce morceau. Mm-hmm. Il y a 4 accords. Et normalement, quand on fait 4 accords, on va avoir tendance à les répéter. Voilà, on veut dire, on répète 4 fois chaque accord. Donc on a 4 temps, 4 temps, 4 temps, 4 temps.
Okay.
Et en fait, là, c'est 4 temps. Et après, on fait 8 temps, 2 temps, 8 temps.
Ok, c'est-à-dire, on change d'accord, mais pas de manière aussi schématique que
4 accords. En fait, on a 4 accords, c'est juste que la durée des accords, elle change, quoi. Donc ça fait 4, 8, 2, 8. Donc ce que je dis dans ma vidéo, c'est que on est plus habitué en fait à avoir ce schéma de 4 accords qui durent 4 temps. Ouais. Et quand on a 4 temps, 8 temps, 2 temps, 8 temps, et bien là en fait ça crée un petit effet de surprise et c'est, voilà, on est content quand on a cet effet de surprise.
Mais est-ce que pour toi, quand ils ont écrit ce morceau, je sais pas qui l'a produit.
Ah oui, mais ils ont été conscients.
Les mecs d'Organized Noise comme d'habitude, ou parce que c'est eux qui tournent avec Outcast depuis toujours.
C'est produit par André 3000
qui l'a fait. Et donc c'est un truc où mais les gars ils se disent quoi, ils se disent
non, moi je pense qu'en fait ils essayent, ils trouvent que ça sonne bien et ils font ça,
voilà, d'accord,
mais je pense pas qu'ils se sont dit ah là
c'est le départ, on va prendre les gens à l'envers.
J'étais pas là quand je sais pas, mais du coup pour parler de la surprise, en fait il y a un doctorant en plus qui travaille un peu sur ces choses là et en fait c'est pas ce qu'il faut faire, mais ce qui peut être intéressant, c'est si on copie-colle exactement quelque chose qu'on connaît déjà, on s'ennuie parce qu'on connaît déjà, mais si on fait trop de surprises, c'est pas top non plus. Il faut réussir à avoir une sorte de compromis.
C'est un bon équilibre,
Et en fait, oui, pour reprendre avec Outcast, c'est vrai que, quand on a le 4, 8, 2, 8, quand on est au 2 et qu'on arrive direct sur le 8, alors qu'avant on a eu un 8, on a un accord qui dure juste 2 temps, c'est vrai que ça crée une sorte de, voilà, ça nous réveille direct, et du coup, ce que je dis, ça peut expliquer peut-être pourquoi ils ont choisi de faire,
Est-ce qu'on peut illustrer ce truc-là? Je sais pas, en repassant le refrain et en te laissant compter les temps.
Ouais, c'est par-dessus. Ouais. Allez, vas-y, on peut essayer
pour
ça.
Pour voir si pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, mais de quoi ils parlent.
C'est parti. Attends, pardon, je te mets avant le refrain. Un petit peu moins fort, comme ça on peut t'entendre par-dessus.
Trop 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
En fait, c'est le changement mélodique, les accords qui jouent, on voit
ouais.
le temps qui...
Ouais, là,
c'est effectivement déstabilisant, c'est pas aussi mathématique, entre guillemets, de manière vulgaire. Ouais. Genre, c'est tout, ah, paf, copier-coller.
Mais la batterie reste droite, elle.
La batterie reste droite, ouais, complètement. Okay. Et en fait, c'est je pense que c'est pour ça que ça
n'a pas, pas, oui, ouais. pas choqué. Ouais.
Je pense que c'est pour ça. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, donc ce que je dis dans ma vidéo, c'est que dans la, donc c'est la vidéo sur les arbres rythmiques. Et ce que je dis, c'est que en fait, ce qui est, donc là, on a un découpage. En fait, on a le 4-8-2-8.
Ouais.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir ça à différentes échelles. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir ça à l'échelle d'au-dessus ou à l'échelle en dessous. Donc, l'échelle d'en dessous, ça serait par exemple que des deux. Mmh. En fait, le 4, on le divise en 2, le 8, on le divise en 4-2, le 2-1-2, etc. L'échelle d'encore en dessous serait que des 1, quoi. On va dire qu'on va s'arrêter là, quoi. Et l'échelle d'au-dessus, bah, on pourrait regrouper de manière différente.
C'est, ouais, c'est un truc parce qu'on n'a pas expliqué le principe de l'arbre rythmique.
Oui, mais parce que là, on était sur le cercle.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai switché sur.
Il y a un autre modèle, effectivement, que tu utilises et où, en gros, bah, on peut imaginer un arbre généalogique ou je ne sais quoi, où, en fait, on part, voilà, on a le morceau en entier, pourquoi pas, après sa première division par partie, puis après encore les mesures,
voilà,
au sein des mesures, etc.
Ouais.
Et ça permet d'avoir différents degrés de lecture, en fait, suivant la ligne où on se met et de comprendre le morceau et sa structure, quoi.
Donc en gros le cercle, on va dire que c'est pour étudier plus un rythme, donc ce qui se passe peut-être à l'intérieur d'une mesure, quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est le cercle, ça vient de Gottfried Toussaint, donc voilà, donc moi j'adore ce qu'il fait, et voilà, c'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos, et je trouve ça, enfin j'ai vraiment trouvé ça super, quoi.
C'est beau comme tu
ouais, c'est ça, je trouve ça super beau. Et donc ça, on va dire qu'on étudie le cercle le rythme d'une mesure par exemple, ou de une ou deux mesures max, quoi. Alors que l'arbre rythmique, c'est quelque chose qui nous donne plus une information sur le thème. Donc là par exemple, on n'a pas juste une mesure, quoi. Dans Eya, on a de base, on avait quatre mesures, sauf qu'ils l'ont un peu transformé. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'arbre rythmique, c'est que justement, on peut voir les différents niveaux hiérarchiques. Et en fait, c'est un truc qui n'existait pas trop en fait avant. Ça vient dans le vidéo, je dis que du coup que ça vient de base du GTTM, donc c'est un livre Generative Theory of Tonal Music.
GTTM, donc.
GTTM, ouais, c'est ouais. ça. Et qui c'est un livre super connu. Et en fait, donc eux, dans ce livre, ces deux auteurs qui ont étudié les niveaux hiérarchiques de la musique, en fait, en se basant sur les groupes de notes. Donc ils ont écrit plein de règles. Donc par exemple, si deux notes ils sont super proches, ben on va avoir tendance à les grouper ensemble. Mmh. S'ils ont un pitch qui est très très proche, on va les grouper ensemble. Alors que les notes sont séparées, ben là on va avoir tendance à mettre une frontière. Et à partir de là, du coup, ils ont représenté des arbres. Et en fait, moi j'étais pas donc le GTTM, c'est une référence. Hein. Enfin, je peux pas juger leur travail, quoi. Enfin, disons que c'est
voilà, ça fait autorité, quoi.
Voilà, cette personne ira dire que c'est nul, quoi.
Mais ça te parlait moins, c'est ça?
Ils savent. C'était en 85, et en fait, je trouvais que la représentation était pas super intuitive, quoi, parce qu'il y a plein de branches, il y a pas de chiffres et tout. Et du coup, en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai fait les arbres rythmiques, et en fait, j'ai un peu calé ça en douce, mais ça existait pas trop avant, en fait. Okay. Parce que avant, en fait, ils utilisaient des arbres, mais plus pour la métrique, donc un peu pour le rythme, quoi. Mmh. Donc, par exemple, ils représentaient du 3-4. 3-4, on va avoir 3 divisé en 3. 5-4, on peut avoir 5 avec 3-2. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que je me dis, mais attends, mais ça, c'est trop bien comme représentation. Je vais mixer ça avec ce qu'ils ont fait dans le GTTM. Et hop, je vais reprendre ça. Je vais utiliser l'arbre rythmique. Je trouve ça hyper intuitif parce qu'en fait, en haut, on a le chiffre qui nous donne une information sur la durée totale du morceau. Donc, par exemple, dans Eya, on va avoir 22. Déjà, on voit 22. De base, on voit un truc avec 22. On sait que voilà, on sait que il y a une petite douille, quoi. Enfin, on s'est fait avoir quelque part, quoi.
Ça va voilà, pas être complètement voilà. Symétrique, quoi.
Exactement. Et en fait, voilà. Et puis après, 22, on peut le diviser. Donc, pour le diviser, on a juste des traits, quoi. Donc, moi, j'aime bien l'harmonie parce que ça utilise des symboles et des symboles très simples. Donc, on a juste le trait et les chiffres. Voilà. Donc, ça, à peu près tout le monde sait ce que c'est, quoi. Et donc, on a 22 qui se divise en 2, et puis ainsi de suite, chaque chiffre qui peut se diviser en 2. Et en fait, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'arbre rythmique. Donc, ça n'existait pas trop avant. Bon, moi, je trouve ça
mais,
très...
mais du coup, l'unité la plus fine, c'est le temps.
En fait, le temps, ça faut le définir. Et en fait, le temps, c'est ouais. Donc dans la vidéo, justement, que j'ai fait un peu après, sur clipping, en fait, j'ai un peu détaillé qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans chaque niveau hiérarchique de l'arbre. Mmh. Et en fait, le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le tatoum. En fait, c'est la plus petite division. En fait, d'accord. Si on a envie d'avoir, si par exemple, dans Eya, c'était ta, 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 ça suffit pour suffisamment comprendre ce qui se passe dans le rythme, bah voilà, on va dire que le tatoum, c'est ça. Si par exemple, il faut faire ta, 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 bah là, voilà, le tatoum, il va être un peu plus fin. Et plus évidemment plus le tatoum il est rapide, enfin plus on va bas quoi, bah plus c'est compliqué quoi. Et il y a des morceaux où des fois je vais peut-être un petit peu trop bas et enfin, ça peut être très compliqué à comprendre quoi.
Donc là c'est voilà. Le truc de Meshuggah dont vous parlez.
Par exemple.
Et bah, tu sais quoi, passons à ça.
J'ai rien compris.
Alors ouais. Ah Meshuggah
tu... Bah, ouais, en fait, la vidéo je l'ai comprise, mais c'est comme si vous parliez de trucs où là vraiment j'avais l'impression de pas être sur le même plan dimensionnel, tu vois.
Okay. Alors, peut-être qu'on peut recontextualiser déjà parce que c'est une musique quand même particulière, un peu extrême. Meshuggah, tu peux nous parler du groupe rapidos?
Ouais, c'est un groupe suédois. Et moi c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur ce groupe. Et c'est un groupe qui en fait aussi je voulais faire une vidéo parce que c'est un groupe très important dans la scène métal, mais pas que, mais surtout dans la scène métal. Et c'est un groupe qui a eu vraiment un énorme impact sur plein de styles musicaux du métal. Et il y a plein de, enfin voilà, j'ai l'impression que ça fait assez l'unanimité. Il y a pas beaucoup de gens qui vont dire que c'est pas bien Meshuggah. Bon, évidemment, si les cris et les guitares un peu saturées ne nous dérangent pas, il y a pas beaucoup de gens qui aiment pas, ouais. Ouais. Et en fait, ce qui est super intéressant avec Meshuggah, c'est qu'ils ont une manière de composer qui est très propre à eux, c'est-à-dire qu'ils ont des règles, enfin surtout une règle qu'ils utilisent quasiment tout le temps, et en fait c'est un peu eux qui l'ont développé, et en fait c'est ce que je trouve incroyable en fait, c'est que cette règle elle réutilise les codes des musiques précédentes. Donc en fait grosso modo c'est, on a du 4-4 quoi, on a des mesures à 4 temps, et on a souvent des sections qui durent 4 mesures ou 8 mesures ou même 64 ou voilà, enfin bon bref. On se comprend quoi, on a des choses qui sont très codifiées, et eux en fait ils se sont dit OK, on part de là, sauf que au lieu d'avoir des mesures donc on va avoir toujours histoire d'avoir des mesures à 4 temps, mais par-dessus on va jouer des guitares qui ont par exemple je sais pas qui vont jouer un motif donc en boucle, mais un motif qui va durer par exemple 7 temps. Donc
c'est à dire que juste pour expliciter un peu, la batterie elle va rester toujours à 4 temps, c'est à dire boum tchac boum tchac 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, sauf que là où dans le rock classique entre guillemets la norme voudrait que la guitare fasse 1 2 3 4 aussi, et puis quand on revient sur le 1
ou
de la batterie on recommence
8,
le riff aussi
jusqu'à 12, mais en tout cas qu'elle reste
voilà, en tout cas, ça reste voilà exactement, et eux ils ont commencé à décaler tout ça,
voilà, on a une sorte de décalage. Et en fait ce qui est marrant c'est que on a un ce que j'appelle le réalignement forcé, là on se réaligne, tout le monde se réaligne au bout de par exemple 4 mesures ou 8 mesures. Et en fait du coup on si on regarde de très loin, en fait on a juste des, si on regarde la structure de très loin, on regarde la durée des sections, on a une section, première section qui fait 8 mesures, deuxième section, enfin tu as couplet 8 mesures, refrain 8 mesures, couplet 8 mesures,
parce que ça reboucle, ça retombe sur ses pieds en moment, retombe sur le début de la batterie, tout ensemble, etc.
Voilà, donc si on revient, allez, on va essayer de reprendre notre structure hiérarchique quoi. On regarde de très loin, on voit eux ils ont fait couplet 8 mesures, refrain 8 mesures, couplet 8 mesures, refrain 8 mesures, mais en fait quand on regarde à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, on a la guitare qui se décale avec la batterie. À la fin, on a le motif qui est coupé parce que pour se réaligner. Et en fait, donc, du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ils ont un peu développé une sorte de règle. C'est ce que je dis dans ma vidéo. Et en fait, Meshuggah, ils se réapproprient un peu les codes de la musique à leur manière, quoi. C'est-à-dire avoir des couplets qui font 8 mesures à 4 temps. Eux, ils font ça, sauf que c'est très très différent quoi.
Mais ça, il faut commencer à zoomer dedans pour se.
Voilà, exactement. Mais enfin, quand on l'écoute, on l'entend direct.
Et mais c'est quoi, vas-y. T'as un exemple d'un morceau vraiment où c'est très audible?
Ah bah tous.
Tous. Donne-moi un quand même, si j'en mets un.
Mets les plus connus, mais tu peux mettre Bleed si tu veux, parce qu'en plus j'en ai parlé. Ouais, c'est leur plus connu.
Allez, c'est parti, ouais. Bleed de Meshuggah.
Ça va être. On change de style.
Parce que je sais pas ce que t'en penses, Daz.
J'ai l'impression d'entendre un hélicoptère, mais.
mais okay. C'est vrai que c'est une musique très rythmique. Alors, en tout cas, quand on écoute, en fait, on se dit. Je sens que la guitare fait des trucs bizarres.
Oui.
Le côté des notes, en fait.
Oui, c'est vrai.
La progression qui. Parce que, en fait, ça joue toujours à la même vitesse.
Oui. Mais ça subdivise quand même le rythme de manière vachement variée à chaque fois.
Ouais, en gros, on a la guitare qui fait. Bon, après, on a la note qui change, mais en gros, on a ce motif-là. Et en fait, ça dure pas 4 temps. Enfin, en gros, ça boucle mal avec la
batterie.
Avec la batterie, surtout qu'en plus, on a le changement de note. Donc, si on rajoute le changement de note, ça boucle mal. Et en fait, la batterie aussi, ce qui est important de dire, c'est que on n'est pas en 1, 2, 1, 2. Enfin, la caisse claire, elle apparaît pas tous les deux temps.
C'est pas boum, tchac, boum, tchac.
Ouais, en fait, ça fait 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3. Donc là, enfin, c'est ce qui se passe dans l'extrait. Et en fait, le fait d'avoir moins de coups de caisse claire, donc là, on n'est plus en. On a divisé par deux, en gros, le nombre de coups de caisse claire. Mais en fait, on a moins de repères aussi.
Ouais.
Et du coup.
C'est un truc plus flottant.
Voilà.
Plus...
Et du coup, les coups de caisse claire, si on se concentre sur la guitare, les coups de caisse claire, on ne sait pas trop.
Vas-y, on remet. Allez, je continue.
Ouais.
Effectivement, on voit que les changements au niveau de la guitare se font pas toujours sur 4
non,
quoi, ou sur le 1. C'est.
Mais du coup, comment pour se réaligner, du coup, il sacrifie la guitare ou
Ah non, il sacrifie la guitare toujours. Donc la batterie, c'est du 4. Donc la batterie, c'est la batterie, c'est du 4. La caisse claire, on va dire, c'est du 4.
Ouais.
Et en fait, au bout d'un certain moment, en fait, ils vont décider de couper le motif. Donc le motif de la guitare, allez, je dis n'importe quoi. Bon, là, on oublie bleed. On va dire que le motif, il fait, je sais pas, 17 temps. Mm-hmm. On coupe le motif pour que tout rentre dans une section qui dure, en fait, qui est quelque chose de très normé. C'est-à-dire un couplet qui dure, par exemple, 8 mesures quoi, ou 4 mesures ou je sais pas 16 mesures, et en fait voilà, et du coup c'est vraiment une manière en fait de se réapproprier.
Mais donc tu l'entends, je veux dire que la guitare s'arrête
La guitare au lieu de faire 17 temps, elle va faire elle fait moins quoi,
parce qu'en fait comme il y a la répétition, le motif on l'a déjà entendu du début à la fin, et en fait si on y a prêté attention, et ben on se rend compte que ah tiens, il est pas allé jusqu'au bout de la fin du motif qu'on a déjà entendu, pour en fait repartir de zéro quoi, pour que ça boucle à nouveau et qu'on soit à l'aise quoi.
Parce que s'il le poussait, enfin, s'il le bouclait volontairement, du coup, il serait en décalage après avec la caisse claire.
Ils vont finir par retrouver normalement au bout d'un moment, mais ça serait trop long en fait.
Surtout, on oublie le principal. C'est que le principal, c'est de faire un couplet qui fait 4 mesures en fait. Enfin, 4 mesures, 16 mesures.
Ouais.
C'est de faire un couplet qui fait 4 mesures. Le but, c'est de rester dans les codes de la musique.
La structure générale, elle doit rester claire.
Voilà, dans les codes, on a toujours fait toujours, évidemment. On n'a pas toujours fait ça, mais ça a été très fréquent, en tout cas surtout dans ces styles de musique-là, de faire des couplets qui faisaient par exemple 16 mesures. Bah, eux, ils se sont dit, OK, on va faire des couplets qui font 16 mesures, mais voilà, on va se réapproprier ça, on va faire ça à notre manière. Mmh. Et pour faire ça à notre manière, bah, on va choisir en fait, d'avoir un décalage volontaire entre la guitare et la batterie. Et si on faisait ça volontairement, bah, en fait, ça va se réaligner, c'est sûr, au bout d'un moment. Bon, déjà, des fois, ça peut être très long, mais surtout, ça va se réaligner. En fait, ça va pas se réaligner au bout de 16 mesures, quoi.
Alors, parce que l'un des premiers trucs qu'on a dit, c'est que ce soit pour Daz ou moi, l'analyse, même si ça s'apprend, c'est pas toujours évident, l'analyse rythmique comme ça, à l'écoute juste comme ça. Et tu dis un truc, alors tu me dis si c'est pertinent là, mais je crois que c'est le cas, c'est que le cerveau est pas forcément fait pour comprendre deux métriques en parallèle.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Et que c'est normal en fait d'être perdu quand on nous met ça.
Ça, c'est un truc dans les commentaires. Donc j'ai dit ça sur mes vidéos. Il y en a beaucoup qui ont dit, ah non, c'est pas vrai et tout. La preuve, le batteur, il joue les deux. Donc ça, non, c'est un truc, ça a été étudié par des chercheurs. C'est-à-dire que quand on a deux métriques qui sont jouées en même temps, on peut
Donc là, par exemple, ça pourrait être.
Là, par exemple, là, on a le 4. Donc là, le 4 et puis le truc un peu plus compliqué de la guitare.
Ouais.
Et en fait, quand on a deux métriques, je sais pas, par exemple, du 5 sur du 4, du 5 temps sur le 4 temps, en fait, on va pouvoir on peut les jouer, par exemple, on va entendre ce qui se passe et tout. Mais en tout cas, notre cerveau, il va se focaliser que sur une métrique à la fois dans les deux cas.
Il va pouvoir passer l'une à l'autre et comprendre qu'elles se combinent, mais il n'est pas capable de discerner tout de suite les deux en même temps, de comprendre.
Si on veut entendre que c'est, par exemple, du 5 temps, il faut se concentrer. Par exemple, on imagine, on a Tech 5 et on a un batteur qui ne sait pas jouer du 5 temps et puis il joue que du 4 temps, quoi.
Okay.
Voilà, on imagine ça. Et, si on se concentre sur si on veut comprendre que c'est du 5 temps, on est obligé d'écouter le piano, d'isoler un peu le piano. On va entendre que c'est du 5 temps, et si on veut entendre la métrique de la batterie, on va se concentrer sur la batterie. Mais notre cerveau, il fait pas clac, c'est du 5 plus du 4. Notre attention, elle va se focaliser que sur une métrique à la fois.
C'est du piste par piste quoi, entre guillemets.
Voilà, en gros c'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a un batteur, je sais plus, c'est un mec qui travaille avec Adam Nelly, c'est le batteur de Anony dans son groupe, je sais plus comment il s'appelle. Et lui, il a fait une vidéo
super chaîne YouTube.
Ouais, c'est bien, c'est sur la chaîne, ouais, super. Bah les deux, c'est top. Hein. On est dans le haut du gratin dans l'analyse musicale. Et en fait, lui justement, il avait fait une vidéo sur ça et il avait parlé un peu de tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est connu en tout cas, qui Donc,
pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, parce que tu as évoqué Dave Brubeck Band à le
Tech 5. Ouais.
Parce que là, on est sur quoi donc sur
5 temps. Ouais.
Mais sur 5 temps, juste pour comme ça que les gens comprennent, parce que tout à l'heure, on fait beaucoup le 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, je peux le mettre et tu comptes en
ouais,
même temps.
Et 5 temps, ouais, parce que c'est vrai que si en comptant, ça aide vraiment.
C'est pas mal.
Et en fait, 5 temps, ce qui est donc dans l'arbre rythmique, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs manières de diviser 5. Par exemple, je sais pas, on pourrait dire je fais 1 et 4, je fais 4 et 1, je fais 3 et 2, je fais 2 et 3. Donc on va avoir plus tendance à faire 2 et 3 ou 3 et 2 parce que justement pour avoir deux morceaux qui se ressemblent à peu près quoi. Mm-hmm. Donc c'est plus fréquent de faire 2 ou 3 et 3 et 2 et donc Take 5 c'est 3 et 2. C'est pas 2 et 3, c'est 3 et 2.
Donc c'est-à-dire qu'on a nos 5 temps et en fait on les divise quand même un peu on regroupe quand même.
Okay. Si on a tendance à regrouper, en fait ça fait 1 2 3 1 2 1 2 3.
Allez, je mets, tu nous le comptes en même temps ?
Ouais, ouais,
c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, effectivement, ça paraît tout à fait naturel, ça se passe très bien, ouais, hein, ouais. Mais c'est pas le 4-4 classique.
Non, c'est pas le 4-4 classique.
Il y a d'autres exemples comme ça. Bon,
Bah dans Devorak, il y en a d'autres. Hein. Il y en a ouais. D'autres. Ouais. Mais bon, bref. Hein. De toute façon, les mesures asymétriques, c'est sympa, mais il y a plein d'artistes qui en font et ça a toujours existé. Après voilà, moi pour revenir peut-être à Meshuga, moi ce que j'aime bien c'est leur manière de composer et de se réapproprier les codes quoi. Mmh. En fait c'est dans l'art ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'artiste en fait il se réapproprie les codes,
contextualiser,
voilà, c'est ça, comment c'est il se base sur ce qui a été fait,
social, ouais. Culturel, artistique de ce qui
et puis comment
autour de
lui. Sachant ce qui a été fait, qu'est-ce que je peux faire en fait. Mmh. Et Meshuga du coup une manière de répondre à ça, c'est de proposer leurs règles.
Et un truc, moi, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Tu me dis si c'est juste, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est que Meshuga est parmi les premiers groupes à commencer à utiliser des guitares avec beaucoup de cordes, avec 8 cordes. Ouais. Alors, historiquement, normalement, la guitare, c'est 6 cordes. Il y en a eu ensuite à 7, ensuite à 8. Mais les cordes qu'on rajoute, c'est des cordes dans les graves. Ce qui veut dire que si tu commences à jouer des riffs sur les cordes les plus graves, bah mine de rien, la tonalité quand même de la corde, elle est un peu moins claire. Parce que plus c'est grave, plus c'est... Voilà. Et donc, en fait... Ils se sont démarqués aussi. Il faut se démarquer par le rythme. Parce que, au niveau mélodique, c'est plus compliqué quand c'est trop grave, en fait. On les repère pas assez, les notes. Et c'est une des explications, en tout cas, enfin, a posteriori, comme ça, qu'on peut dire. Ils ont tellement travaillé leur rythme, c'est parce qu'ils avaient bien conscience qu'avec ce son extrêmement grave, puissant, certes, mais qui, au niveau mélodique, est un peu plus limité, il faut se démarquer à travers le rythme.
Voilà, c'est ça. C'est un peu ça.
Du coup, s'ils l'avaient pas fait, ça aurait fait quoi? C'est...
Bah, il y a des groupes qui ont des, je sais pas, par exemple, Animal as Leader, c'est un groupe avec de la 8 cordes qui font beaucoup d'harmonie. Mais en fait, si on contextualise un petit peu, en fait, Meshuga, quand ils arrivent dans un métal où on a énormément de power chords, donc les power chords, c'est des accords où on a trois notes. Bon, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais et on joue les trois notes les plus graves à la guitare, quoi, souvent, ou quasiment les plus graves à la guitare. Et en fait, donc les trois cordes les plus graves à la guitare. Et en fait, Meshuga, ils sont arrivés, du coup, avec la guitare 8 cordes. Et en fait, il se trouve que quand on fait un power chord sur une guitare 8 cordes, ben, ça, c'est pas top, 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 quoi.
Meshuga a fait école derrière. C'est un groupe extrêmement influent. Je crois que tu l'as rappelé tout à l'heure. On dit souvent, d'ailleurs, que toute la scène qu'on appelle parfois djent derrière, c'est quand même énormément inspiré de Meshuga. Parce que justement, c'est à base comme ça une corde, extrêmement rythmique comme ça, et de matraquer des riffs comme ça. Et voilà, vraiment, ça vient. Une des caractéristiques du son djent, et ça proviendrait de Meshuga. Mais il y a un autre exemple dont tu parles, c'est un jazzeux,
oui.
Qui lui s'inspire aussi de ce que fait Meshuga au niveau rythmique.
Oui, c'est Tigran Amassian. Oui,
on peut peut-être s'écouter un extrait.
Ouais, en gros, quand j'ai mis ça dans mes vidéos, je ne l'ai pas mis pour rien. Tigran Amassian, ouvertement, il dit Tigran Amassian.
Je me suis inspiré.
Voilà, enfin, il dit pas, peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, il parle de Meshuga.
Il
les références, il a déjà. Enfin, j'ai déjà vu plusieurs interviews où il parlait de Meshuga.
Et donc lui il fait la même chose, c'est-à-dire
il a fait un morceau, c'est ce que je parle ce qui est marrant, c'est comment là on peut se dire comment j'ai compris qu'il avait fait ça. Enfin, en gros il a fait un morceau, il utilise la même règle de Meshuga, donc la règle d'avoir des sections qui durent 8, 4 mesures
qui se
réalignent, ouais. Donc là dans le morceau qu'on va mettre, c'est un morceau qui dure 35 temps. Donc en fait 35 et 16, bah ça va pas, ça va se décaler. Donc 35 c'est 35 double croche, ça va très très vite. Hein. C'est 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, enfin bref. Et en fait lui du coup, il a fait la même règle que Meshuga et je suis sûr. Alors évidemment, il faut lui demander, parce que en fait cette règle on la fait pas par hasard, hein. Enfin
c'est vraiment quelque chose de voulu quoi.
Ah, je pense que je suis sûr. Après moi j'aimerais bien
lui poser la question.
Ouais, mon rêve ce serait d'avoir une conversation avec quelqu'un comme ça, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ait conscience de tout ce processus et qu'il ait conscience que ça vienne de Meshuggah, quoi.
C'est quoi le nom du morceau de le Tigre à la
Masia? C'est Entertain Me.
Et ben, allez, on
c'est là, ça doit être une des plus connues.
Et on se mettait juste hein, comme ça sans l'écouter, et après tu nous explicites, enfin sans l'écouter, n'importe quoi.
Sans
parler par-dessus, pardon.
Compter, c'est plus dur.
Et après, là,
c'est,
ça va être difficile de compter.
C'est plus dur, c'est plus dur.
T'essayeras quand même.
Là, on vient de se réaligner.
D'ailleurs, il y a un sentiment, enfin, moi, en tout cas, j'ai senti ça. Ah, là, je comprends ce que. Ouais. Tu vois, il y a une satisfaction quand tout retombe ensemble.
Complètement.
Et alors, donc là, qu'est-ce qu'il applique comme recette? Donc, c'est Meshuggah, c'est-à-dire qu'il y a, la batterie, enfin, le rythme de 4-4, ça c'est hop.
Ouais,
et c'est après, 4-4. C'est ce qui se passe au piano qu'il a par contre.
Charlie, c'est 1, 2, et hop, qu'est-ce clair? 3, enfin, sur le 3 et 4.
Vas-y, c'est quoi, je le remets et.
Bon, le 4, c'est facile à compter.
Juste ouais, la batterie, mais vas-y quand même.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3.
Ok, 4. Donc la batterie, on l'a, ça c'est simple, effectivement. Voilà. Et c'est ce qui se passe au piano, par contre, qui est compliqué.
Donc là. Là, c'est autre chose.
Ouais.
Là, maintenant, donc faut peut-être remettre au.
Je remets, vas-y.
Ah non, là, si, c'est bon.
C'est
bon, on peut remettre au début, ça va être plus simple.
Vas-y, je remets du début.
Donc là, on a un. Ça, c'est premier accord. Deuxième accord.
Ok.
Et le premier accord, il dure 20 double croches, quoi. On va dire 20 temps.
Ok.
Et le deuxième, c'est 15.
Okay.
Et le 20, en fait, c'est 5, 5, 5, 5, 5. Enfin, 4 blocs de 5. Et le 15, c'est 5 blocs de 3.
Ok. Okay. Donc déjà, ça complexifie le truc.
Ouais, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Mais en gros, si on veut compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, c'est.
Non, mais du coup, en fait, quand tu le dis comme ça, ça fit avec la mélodie, en fait.
Absolument. Absolument. Mais c'est vrai que c'est à la première écoute. En fait, c'est parce qu'il y a la batterie en plus. Si tu isoles chaque truc, effectivement, c'est déjà plus perceptible par le cerveau. C'est ce qu'on disait. Et si en plus tu rajoutes ça, le visuel avec, par exemple, l'arbre rythmique, etc. Ça aide vraiment, quoi.
Ça veut dire que le décalage, là, il se fait dès le départ.
Ouais, dès le départ.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, le truc, je pense que les gens, ils essaient de comprendre, c'est quelle note est attendue sur la caisse claire, tu vois, pour vraiment observer le décalage.
Ça change tout le temps, quoi.
Et en fait, ouais.
Ouais.
D'accord.
Par contre, ce que tu ressens, c'est quand tout retombe sur le premier temps ensemble, ça, tu le ressens, parce que ça fait waouh.
Ouais.
Je trouve que ça fait cet effet.
Ouais, clairement. C'est à 30 secondes, je crois.
Ouais.
Allez, vas-y, remets-le.
Tu veux mettre à 28-27,
ouais, c'est juste... Là, on est à 24, c'est reparti.
Voilà, c'était là. Ouais, c'était là.
Ça correspond aussi au changement de...
Bah, c'est là où il rajoute un petit truc.
Ah bah, il l'appuie, bien sûr, il l'appuie.
Je pense qu'il fait ça, voilà, c'est pour montrer que là, on change de section, quoi.
Ouais. Ouais. C'est fou, ça.
C'est toute une science, la musique.
Ah non, mais c'est...
Ouais, alors, j'aimerais bien vraiment préciser que moi, ce morceau, je l'écoutais sans... comprendre ça,
ouais.
Et que on n'a pas besoin de comprendre ça pour bien aimer sûr. Le morceau, quoi. Moi, tout ce que je fais, c'est voilà, ça reste un gros truc de geek, quoi. Ouais,
mais à quel moment, en écoutant ce morceau, tu te dis oh putain,
bah voilà, c'est ça qui est marrant.
Mais c'est Meshuggah,
c'est ça qui est marrant. Je sais pas,
ok,
je sais pas comment
parce que là, on dirait vraiment Neo dans la Matrice, tu vois, c'est
ouais.
tu vois les lignes de code.
Non, mais en vrai, c'est assez intéressant. En fait, il y a des donc Meshuggah, par exemple, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois. Et je sais pas, il y a un moment, je me suis dit, attends, mais dans ce morceau, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui ressemblait à ce que je dis là. Mmh. Et après, je suis allé écouter, et puis en fait, il se trouve que oui, ça ressemble à. Bah, en fait, c'est même la règle de Meshuggah, quoi. Donc, comment je fais le lien, j'avoue que je sais pas trop. Je pense que c'est beaucoup d'inconscient.
Ouais.
Mais après, voilà, c'est parce qu'aussi. Après aussi, Tigrane, je savais qu'il aimait bien Meshuggah. Il y a des liens.
Oui, il y avait des ponts.
Et puis ça, on va pas se cacher, c'est du jazz, mais ça sonne pas du tout
ouais,
du
jazz. Pas
ouais,
du
ouais,
jazz.
Ouais. Ouais. C'est-à-dire, on demande à un pur jazzman, je suis pas sûr qu'il va dire que c'est du jazz.
Ouais.
C'est juste qu'on dit que c'est du jazz parce que Tigrane, il a fait. C'est un vrai jazzman, pour le coup, lui, il a fait des vrais morceaux de jazz. Mais voilà, mais Tigrane d'ailleurs, allez écouter, hein, c'est vraiment super bien Tigrane Hamassian.
Bon, on passe à cette partie un peu sur la recherche, ça sera plus court, hein, sur la recherche musicale, parce que pareil, on parle d'univers que assez peu connu du grand public. Eh bien, le domaine de la recherche dans la musique, c'est un truc qu'on connaît pas très bien. Dans l'université, sur les sciences, je sais qu'on aime pas plus dire ce terme, mais dur, on voit à peu près. Toi, tu viens de rendre une thèse.
Ouais, la semaine dernière.
Tu peux nous donner l'intitulé exact de ta thèse ou la problématique? Enfin, ça porte sur quoi exactement?
Bon, je vais le traduire en français parce que du coup, c'était en anglais.
Ah oui, d'accord. Je pensais que tu parlais français, genre c'était incompréhensible et tu parlais français. Pardon, vas-y.
Ouais. Oui. Et oui, j'ai aussi peut-être utilisé des mots peut-être plus simples, mais en gros, peut-être pour ceux qui savent pas, une thèse, en gros, c'est 3 ans d'études. Et on est encore étudiant.
Après le master.
Voilà, c'est après le master 2. Et en gros, ce qu'on rend, c'est un document, moi, qui fait 200 pages, quoi, à peu près. C'est un PDF, quoi, qui fait 200 pages. Et qui porte sur un sujet. Donc, moi, mon sujet, c'est les mathématiques appliquées et surtout appliquées à la musique, quoi. Et donc, par exemple, on peut avoir. C'est courant d'appliquer les mathématiques. On peut avoir les mathématiques appliquées pour, je sais pas, des domaines de biologie, pour les images, pour plein de trucs. Et en fait, moi, dans ma thèse, mon but, du coup, c'est d'appliquer des théories de maths pour la musique, pour analyser la musique et en particulier pour analyser les motifs qu'on peut trouver dans la musique, la structure, donc c'est-à-dire comment les motifs s'organisent et comprendre comment les motifs sont joués dans la performance. Donc c'est ces trois parties-là. Et voilà, donc ça c'est les problématiques de ma thèse. À la fin, j'ai un petit chapitre sur ce que j'ai fait en vulgarisation, trois pages.
Ça, c'est les thématiques qu'on retrouve dans ta vidéo.
Voilà,
j'imagine
c'est
ça. Que tu vas
plus
loin dans ta thèse. Et notamment, alors, là, par exemple, tu t'amuses avec, tu t'amuses entre guillemets, tu prends un Meshuggah parce que tu t'aimes ce groupe, tu l'analyses, etc. Mais j'imagine que dans le cadre de la thèse, tu peux pas prendre 3-4 morceaux que t'aimes. Tu dois des données, tu dois avoir une masse de morceaux que tu peux travailler. Enfin, comment
voilà,
ça se passe?
Bah, en gros, la recherche, c'est quelque chose qui est très, codifié quoi. Enfin en gros, on fait pas tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que la thèse j'ai pas choisi ma police, j'ai pas
la mise en page est très stricte.
Voilà, non mais c'est vrai hein, c'est vrai. Enfin en tout cas dans mon domaine en tout cas ça l'est. Et c'est aussi plus simple parce que du coup on se prend moins la tête sur certains trucs. Et c'est très strict donc dans les manières de en gros voilà, si dans la recherche on n'arrive pas et on dit je vais faire mon truc, ça va marcher, c'est sûr. Bon, on doit d'abord être conscient de ce qui a été fait avant et pour ensuite essayer d'améliorer en fait ce qui a été fait avant. Et de la même manière que Meshuggah, ils ont eu conscience
des groupes qui les ont précédés.
Des groupes qui les ont précédés pour proposer leur façon. Et pareil que Steve Reich, il a eu conscience du sérialisme pour justement proposer une musique qui s'opposait à ça et pour proposer sa nouvelle version de la musique. Et en fait, dans la recherche, voilà, on essaye d'avoir une connaissance sur ce qui a été fait dans notre domaine. Donc évidemment, on peut pas tout lire. Enfin, on va pas lire toute la recherche, mais on va lire ce qui nous concerne, quoi. Voilà, moi, ça fait partie de mon quotidien d'essayer de me renseigner sur les choses. Après, voilà, moi, personnellement, je pense que j'en abuse un peu parce que je suis curieux et surtout, je me dis peut-être qu'un jour, je pourrais l'utiliser pour la vulgarisation scientifique. Donc, j'essaye. Et moi, le truc que je lis le plus, c'est pas des romans, c'est des articles de recherche, quoi.
Mais chacun ses kiffs.
Voilà, chacun ses kiffs. Mais du coup, ça en devient presque bizarre parce que bon, il y en a partout à droite, à gauche chez moi. Et en fait, du coup, il y a des. Donc, c'est très normé. Donc, voilà, donc on a ces articles-là. Donc, ils sont. C'est très standard. Il y a toujours une intro. Petit abstract avec ça et donc il y a des domaines, donc par exemple pour revenir avec les morceaux que tu voulais dire, donc il y a des, donc par exemple il y a des gens qui ont travaillé sur certaines bases de données, donc par exemple on va pas dire on peut dire je vais analyser ce morceau, mais souvent ce qu'on fait c'est que par exemple si on cherche de la structure ou des motifs, on va avoir plus tendance à regarder ce que les autres ont fait, à essayer de comparer et de proposer du coup une nouvelle version de comment on va découvrir les motifs ou la structure dans
J'imagine même que tu peux pas te contenter d'analyser 10 morceaux dans ta thèse, etc. Qu'il doit y avoir un nombre de morceaux importants et que tu peux pas prendre le temps de tous les faire. Et donc tu te reposes justement sur le travail des précédents qui ont potentiellement ou analyser la structure
Non. Ce que je fais, c'est en gros, je propose une méthode pour trouver les motifs. Donc en fait, une fois qu'on a la méthode, on peut l'appliquer sur 10 000 morceaux et l'ordi le fait, ça fait un clic. Bon, en réalité, souvent ça prend un petit peu de temps. Donc
parce que derrière toi, l'application, c'est aussi de créer des programmes qui permettent ressortir des structures.
Complètement, c'est de faire entrer et que le truc il te sorte quelque chose. Sauf que la musique, c'est loin d'être simple. Donc en fait, la musique, il y a énormément d'artistes qui s'amusent à faire des exceptions aux règles. Et en fait, par exemple, tu vois, on imagine, dans la musique, on a toujours cette idée de répétition. Ah ben, Meshuggah, non, ils font tout le temps des choses qui sont coupées. Donc en fait, c'est c'est quasi impossible de créer un algorithme qui te sort la structure de n'importe quel morceau, quoi. Surtout que déjà, il faut des bonnes données, parce qu'on a deux types de données différentes. On a
mais, parce que ça, par exemple, j'avais pas compris ça, dans le cadre de cette émission, on en a parlé avant, je le sais.
Ouais.
Mais c'est qu'en fait, tu cherches aussi à développer des programmes.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Et
c'est
qui, tu lui fournis un fichier, et derrière, lui te dit, voilà la structure.
Voilà, c'est ça. C'est okay. ça. Donc moi, je lui donne la partition.
En fait, t'entraînes ton programme, quoi.
Bah, en fait,
à reconnaître les...
l'entraînement, ça peut faire partie du processus, mais pas forcément, en fait. En fait, moi, mon but, c'est plutôt d'essayer d'obtenir des résultats mathématiques. Donc, par exemple, pour parler cru, ça va être des propriétés, des théorèmes, des lemmes, tous ces trucs-là. Et en fait, qui permettent de dire, voilà, si tu veux découvrir un motif musical, par exemple, bah, fais plutôt comme ça, ça aura plus de chances de marcher que si tu fais ça, quoi. Et en fait, c'est donc quand on travaille sur des choses comme ça, on n'a pas besoin d'entraînement, en fait. On a besoin de l'entraîner. C'est très brut, quoi. Donc,
oui, mais du coup, ça veut dire que la façon que tu as de parler à ton programme, on va dire ça comme ça, c'est tu lui donnes des clés universelles. C'est-à-dire qu'après, tu lui fais écouter n'importe quoi.
Voilà, c'est un peu ça. Mais sauf qu'en réalité, c'est la musique, c'est très très varié, c'est très compliqué. Ouais. On peut pas trouver quelque chose qui marche pour tout. En fait, faut regarder quand on regarde ce qui a été fait avant, on se rend bien compte que les méthodes elles changent en fonction des styles.
Donc ça veut dire que tu l'inscris quand même dans un
certain cadre.
Ouais, ouais,
dans un certain cadre. Par exemple, moi, il y a un moment, j'ai travaillé sur les fugues de Bach. Donc les fugues de Bach, c'est pratique parce que en fait il y a les partitions avec des fichiers MIDI et tout ça, donc on peut direct analyser. Et puis il y a un motif en fait dans les fugues qui se répète et qui évite des transformations et tout. Mais en fait les fugues, ce qui se passe dans les fugues, c'est ça se passe que dans les fugues, quoi.
Ouais.
Enfin voilà.
Tu peux pas le décliner après sur d'autres artistes, d'autres compositeurs.
Mais c'est pas
comme ça en tout cas.
En fait
cas,
c'est un style de composition et un style d'écriture qui est très propre à la fugue, quoi.
Ouais.
Et c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. En fait, on s'en rend pas compte. Mais Bach, il fait plein de trucs bizarres, en fait. Enfin,
il était chaud, hein. Il était chaud.
Bah, en fait, ouais, il était pas mauvais, ouais.
Mais du coup, est-ce que ce genre de truc, ça peut te permettre de retrouver par exemple, les motifs que tu identifies dans les fugues de Bach? Et de te rendre compte qu'en fait, c'est aussi utilisé chez Taylor Swift ou...
Par exemple, on pourrait faire des similarités entre deux morceaux, ça peut arriver. Là, en l'occurrence, ça marchera pas parce que, bon, c'est la fugue de Bach, c'est vraiment très
spécifique, ouais.
Mais oui, mais par exemple, trouver des similarités entre deux morceaux, oui, il y a des gens qui font ça, on peut trouver ça. Mais après, je pense que tu t'attends à avoir, on a ce motif-là et que le motif, en fait, c'est le petit truc du refrain et que tu... En fait, c'est plus compliqué que ça.
C'est
plus compliqué que ça. Donc il y a des similarités, mais ouais, c'est...
Tu disais que tu avais les fichiers MIDI de fugue de Bach, par exemple, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu moins le cas? Enfin, il y a beaucoup de bases de données, parce que donc pour travailler, évidemment, tu peux pas à chaque fois prendre le morceau et tout noter, etc. Donc tu pars sur des fichiers qui ont déjà des partitions, entre guillemets, alors en version MIDI, certes, mais qui ont déjà été... Collecté, codifié, etc. Et en général, c'est souvent de la musique classique plutôt qu'on trouve.
Voilà, bah en fait, en gros.
C'est libre de droit.
Ouais, déjà, c'est mieux quand c'est libre de droit, mais si on va dire qu'on oublie ces détails. Et en gros, il faut de la musique qui soit codifiée, donc en format MIDI. Donc en gros, le format MIDI, c'est une partition, pour ceux qui ne savent pas. Grosso modo, c'est une partition, sauf qui est. Qu'on peut lire avec un programme informatique, quoi.
Donc, et qui produit la musique directement.
Voilà, qui produit la musique directement.
Quoi.
Voilà. Ouais. Donc dans l'ensemble MIDI, on sait que telle note est jouée à tel endroit et dure tel temps, quoi. Et jouée par tel instrument, voilà. Bon, c'est pour résumer, hein. Le créateur du fichier MIDI, il serait pas content s'il nous écoutait, mais en gros, voilà, donc les fichiers MIDI, et donc il y a des gens qui justement collectent, enfin qui font des bases de données MIDI et qui les annotent pour qu'on puisse justement après comparer les résultats de notre algorithme avec, par exemple, c'est les musicologues qui vont annoter et on va pouvoir comparer ça.
Okay. C'est un métier, ça, de collecter, créer des fichiers MIDI.
Créer des fichiers MIDI. En tout cas, le processus de donc la recherche, le but c'est d'avancer. Donc quand on travaille sur un projet, bah en fait très souvent on va essayer de développer, par exemple, je sais pas, on travaille sur par exemple la performance, on va essayer de développer une base de données ou de collecter certains trucs dans la performance qui permettent de faire avancer en fait la recherche dans la performance.
La performance, c'est le fait de jouer de la musique
la performance. Donc moi ça a été un des trois domaines de ma thèse. Et en fait ce qu'on se rend compte, c'est que pour le moment on comprend pas trop comment ça marche, c'est-à-dire que en fait on sait pas trop on comprend des choses, mais on est loin de, d'avoir tout compris, quoi. En gros, c'est ça.
Et c'est-à-dire quand tu, c'est-à-dire qu'on a une partition et c'est comment ensuite le.
Par exemple, on parle du piano, donc ouais. Vu qu'on comprend pas tout, moi je me suis, enfin, et les autres avant moi, c'est mieux de se réduire au cas d'un musicien qui joue du piano, parce que le piano c'est plus facilement modélisable que d'autres instruments. Okay. Et c'est là où on a beaucoup de morceaux, en fait. On a toute la musique classique où il y a énormément de morceaux au piano solo. Et en fait, donc là, moi, j'ai utilisé une base de données donc, qui a été faite en 2018, quoi. Donc c'est très récent, quoi. Et qui a été faite justement. Et grâce à ça, j'ai pu faire de la recherche, quoi, sur la performance.
Mais cette base-là, elle avait été faite dans le cadre d'une autre thèse.
Voilà, je pense pas que c'était une thèse. Mais de la recherche. Peut-être. Voilà, c'est de la recherche. Ah oui, c'est de la recherche. Oui. Ah oui, tout ce que je fais, c'est basé sur des trucs de recherche. Enfin, très souvent, c'est basé sur des trucs de recherche. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé, en fait, pour aider, en fait, la recherche sur la. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les mazurkas de Chopin. Donc en fait, c'est des mazurkas, c'est comme un peu des valses, okay. C'est de la musique à trois temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les courbes de tempo et de volume. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les courbes de tempo et de volume, elles suivent, en gros, elles nous permettent de comprendre les motifs que le musicien y joue. Et en particulier, les motifs, on les voit parce qu'on a des U inversés. En fait, on a des choses comme ça. Donc, au début, par exemple, il ralentit. Après, il accélère. Puis après, il ralentit. Et on a des U comme ça. Et chaque U, ça nous donne un motif. Ça nous donne le début et la fin d'un motif, quoi. Donc ça, c'est hyper cool parce que du coup, en étudiant ces courbes.
Il y a que lui que ça excite, hein. Les U, là.
Non, mais c'est marrant.
Ouais. Et du coup, donc, en fait, voilà. Donc, le musicien, en regardant les variations qu'il peut faire au piano, ben, en fait, on a une manière de voir comment lui, il a interprété la partition. Ouais. Parce que lui, il aurait pu choisir de les grouper un peu n'importe comment.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on voit aussi la patte de l'instrumentiste et qu'à partir d'une même partition, on peut analyser les façons dont c'est ensuite adapté, joué par tel musicien spécifique.
Ouais, exactement.
Ça, c'est passionnant, effectivement.
Bah ouais, ouais. C'est
mon taf.
Ouais. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est lié avec la structure qu'il y a dans le morceau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quel découpage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les motifs qu'on trouve dans la partition versus les motifs que la personne a joué en fait.
C'est-à-dire que la même partition jouée par trois instrumentistes différents, tu vas pas avoir exactement le même.
Exactement. D'accord. Exactement, on va avoir des découpages différents.
Mais du coup, ça se ressent à l'écoute?
Ah oui, ça peut se ressentir parce qu'en fait, on entend.
On parle d'interprétation après.
Voilà,
c'est ça.
On ressent qui. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui écoutent des pianistes connus et tout ça. Mmh. Et ça. Bah voilà, parce qu'on a des. En tout cas, en partie, parce qu'on a des groupes de notes qui vont être différents, une segmentation de la partition qui est différente.
C'est un point d'ailleurs qui est passionnant que je recoupe là avec l'univers du streaming. Apple Music propose depuis quelques temps.
Ah, du streaming musical.
Oui, du streaming musical, pardon. Non, pas des streamers à Twitch et compagnie. Non, on parle de choses passionnantes ici.
Oui, ça va.
Apple propose depuis peu une appli dédiée à la musique classique. En fait, ils n'ont pas intégré le catalogue dans Apple Music de base.
Ils ont dit, attendez,
c'est une consommation tellement différente qu'on va sortir une app spécifique qui est intégrée dans l'abonnement Apple Music, hein, mais une app spécifique pour consommer la musique classique. Okay. Et en fait, et tu vois comment ils ont classé la musique, les recherches qu'on peut faire, etc. Et on voit la place de l'interprète. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de morceaux qui ont été tellement joués par plein de gens extrêmement différents, et on sait que l'auditeur de musique classique, il va rechercher tel interprète particulier, ou tel concert particulier de telle année, etc., etc. Et on voit effectivement que l'interprétation a une place extrêmement importante dans le monde de la musique classique, peut-être plus que dans la musique populaire, où souvent il y a un interprète, voire quelques reprises, mais ça reste limité quand même, quoi. Ouais.
Et c'est identifié comme des reprises.
Absolument, c'est vrai.
Alors que si tu cherches la septième de je sais pas qui, en fonction de l'interprète, ça va pas du tout avoir le même.
Absolument.
Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal.
C'est peut-être pour conclure un peu sur tout ça. Parle-nous de l'IRCAM. Peut-être déjà, on peut redonner l'acronyme, enfin le sigle exactement, ce qu'il
signifie. Institut de recherche.
Il est chiant. Je le connaissais à un moment.
Institut de recherche contemporain.
Coordination acoustique musique.
Ah, c'est ça. Ah ouais. Institut de recherche et coordination acoustique musique.
Acoustique musique. À la fin, ils ont fait comme Rouba. Il y a même plus de l'acoustique et de la musique. C'est l'acoustique. Ouais. Ok. Très bien.
C'est quoi ce lieu? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi toi tu fais de la recherche? Ouais,
en gros, c'est un laboratoire de recherche. Donc, en gros, c'est, il y a des chercheurs, enfin, il y a des gens qui travaillent sur la recherche qui sont là-bas, quoi. Et en fait, le but de l'IRCAM, c'est de mélanger les scientifiques et les musiciens. Donc on va dire que moi j'ai une casquette de scientifique, enfin, même c'est la casquette que j'ai quand je suis à l'IRCAM. Et en fait le but c'est de d'avoir des interactions entre des gens qui viennent qui ont un background en tout cas très scientifique. Donc par exemple moi c'est ce que j'ai fait parce que je viens des mathématiques, quoi. Et des gens qui et de faire des collaborations avec des purs musiciens et puis d'avoir des interactions entre les deux Et en fait, c'est ce que, bah, c'est ce qui se passe à l'IRCAM, et c'est pour ça que c'est super cool, quoi.
Tu disais d'ailleurs qu'il y avait plusieurs sections. Il y a, voilà. Il y a des gens qui vont s'intéresser au traitement du signal. Enfin, peut-être tu peux nous parler.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a des, donc, il y a différentes équipes de recherche. En fait, chacun a son thème. C'est-à-dire que dans la recherche, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est très vaste, hein. Donc, il y a des catégories, quoi. Mm-hmm. Et, donc, il y a des, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur l'acoustique. Donc, par exemple, je sais pas, on a une guitare et on veut savoir si on fait varier la caisse de la guitare, quel va être l'impact sur le son de la guitare, quoi. Par exemple, je sais pas, imaginons, on veut faire une guitare toute petite, mais on veut que le son il reste correct. À quel point on peut réduire la caisse? Je sais pas. Bon, là, je dis ça un peu au pif. C'est pas mon domaine en plus, donc j'ai pas envie de dire de
bêtises. Non, mais c'est de la recherche avec des potentiels débouchés.
Voilà, ça, industriel, oui, complètement. Mais aussi peut-être plus théorique.
Pour la beauté de la recherche.
Voilà, voilà.
Et tu rentres là-dedans aussi, comment le son va se réverbérer dans la pièce, etc. Ou
possible.
C'est encore un autre domaine
Possible, ouais. Possible. C'est peut-être encore un autre domaine, je suis pas sûr. Voilà. Okay. Je vais pas. Voilà.
En tout cas, c'est des choses qu'on étudie à l'IRCAM, ça aussi, comment le son se propage ensuite dans l'espace.
Mais par contre, la question que j'ai, c'est. On connaît déjà ça. Enfin, tu vois, je veux dire.
Bah, il y a toujours
encore des choses à chercher.
Non, mais en fait, c'est la recherche, c'est infini, en fait. Ouais.
Parce que le son, l'onde, machin, on voit comment ça fonctionne.
Oui, mais non, mais par exemple, il y a un doctorant qui est un ami à moi qui travaille, lui, sur le paysage sonore. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans la rue? En fait, dans la rue, on parle beaucoup de pollution, je sais pas, la pollution, comme tu l'entends, mais en fait, on parle jamais de pollution, auditive. En fait,
dans les villes, on en parle un peu de pollution sonore.
Voilà, on en parle, mais en tout cas, lui, son but, c'est de.
C'est pour centrer des débats, en tout cas.
Voilà, c'est d'un peu essayer de. Bah, en fait, c'est très nouveau, en tout cas, dans le domaine de la recherche, et son but, c'est de, bah, justement, d'essayer de comprendre comment on pourrait faire pour avoir un meilleur paysage sonore, quoi.
D'accord.
Donc, je sais pas, une solution. Comment au niveau mettre des arbres.
Un genre d'EQ sur tes fenêtres pour.
Non, mais par exemple, les arbres, ça atténue le son. Donc, voilà. Mais sauf que le problème, c'est qu'on peut pas mettre un bois de Vincennes dans Paris. Donc, il faut trouver des justes milieux. Et donc,
ça veut dire recherche sur les matériaux aussi, dire.
Peut-être, ouais. Donc,
avec des briques en moquette, ça marcherait mieux.
Je suis pas sûr. Je réponds pas.
Avec des bâtiments triangulaires, peut-être.
Parce qu'en fait, c'est. Je pense que derrière ta question, on comprend les mécanismes de base, mais ensuite il y a tellement d'applications, tellement d'environnements,
et puis il y a toujours
à chercher, quoi.
Et surtout il y a toujours des questions, en fait, c'est pour ça que je parlais de paysage sonore, il y a toujours des nouvelles questions, en fait, qui arrivent. Il y a
la société change, voilà, on se pose des questions différentes.
Non, mais c'est ça, quand on parle de recherche sur le son, justement, le son, c'est quelque chose qui est compris. On connaît les propriétés, on sait comment ils se propagent, on sait comment ils se réverbèrent, on sait quel impact peut avoir justement la matière par rapport à la propagation de l'onde sonore, etc. Donc tu te dis, bon, bah, grosso modo, on a fait le tour, tu vois.
Ouais, mais non, mais il y a toujours la recherche, vraiment, c'est infini.
C'est nos impôts, moi je suis content.
Non, mais ouais, c'est bien dépensé,
ouais,
moi je crois.
Ouais, pour le coup, ouais.
Et juste, on disait qu'il y avait donc différentes équipes.
Voilà, donc là j'ai parlé de paysage sonore, donc il y a aussi des gens qui travaillent par exemple sur le traitement de la voix. Donc c'est sur, par exemple, je sais pas, moi je parle et en fait c'est la voix de quelqu'un d'autre qui va sortir. Je sais pas, d'une femme par exemple, qui sort. Donc il y a des gens qui font ça. Il y a une équipe aussi, par exemple, il y en a qui travaillent sur le mouvement aussi. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut faire de la musique avec des mouvements, tu vois, avec des capteurs, tout ça, tout ça. Okay. Et il y a aussi, il y a une équipe qui s'appelle Représentation Musicale. Et donc ça, c'est mon équipe. Donc c'est une petite équipe qui travaille justement sur les modèles informatiques et mathématiques pour la musique, quoi. Donc en fait, ça peut être pour la génération, pour l'analyse, pour plein de trucs que j'ai parlé avant.
Les générations, c'est en gros, c'est
faire de la musique, quoi.
Faire de la
musique. Générer de la musique avec de l'intelligence artificielle, quoi. Ouais, c'est ce genre de truc.
Voilà, c'est là. Là, on est
là. On y est là. Eh ben, allez, podcast, on recommence une heure et demie encore. Intelligence artificielle, musique.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet qui, pour le coup,
fait débat, exactement.
Est complètement au cœur de l'actualité.
Et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, mais je pense pas qu'il y a tant à s'inquiéter que ça. Enfin, il y a.
Oui, mais ça, c'est les gens qui font les recherches. Ils me disent, vous inquiétez pas. On travaille sur un principe de rayon laser là, qui est capable de raser une ville, mais vous inquiétez pas, nous on va s'en servir que pour. Oui. C'est normal. Bah,
si on avait Oppenheimer, oui, mais c'est pas la recherche, c'est pas comme dans Oppenheimer. Dans Oppenheimer, ça a l'air super bien. La recherche, c'est super bien, mais c'est pas aussi dynamique, quoi.
C'est un peu chiant aussi. Bah, mais Oppenheimer, c'est chiant le film.
Ouais, mais donc, moi, mon quotidien, pour être franc, mon quotidien, voilà, je suis derrière un ordi et. et je fais du code ou des trucs, mais voilà.
C'est, arrête, c'est... c'était sexy jusque là ce que tu racontais.
Moi j'adore.
En
hein,
fait,
j'adore,
le mec est derrière son ordi toute la journée, quoi. Bon,
mais comme comme beaucoup de monde, enfin c'est
comme un streamer par exemple.
Voilà, comme un streamer, c'est vrai.
Comme un streamer. Voilà.
Exactement, hein.
Mais et voilà.
Ah là, tu dis rien là.
Je te regarde,
ouais. Donc voilà, donc en fait, donc à l'ERCAM, il y a vraiment toutes ces, il y a énormément de domaines, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est il y a énormément de chercheurs du coup qui travaillent pour la, enfin qui applique des sciences à la musique, quoi, et pas que des, enfin pas que des sciences, plein de choses. Et bah voilà, du coup c'est
mais, l'IRCAM. Mais du coup, ça veut dire, parce qu'on parlait de potentiel débouché industriel, ça veut dire que l'IRCAM dépose des brevets.
Ouais, je sais qu'il y a une, mais bon, disons que c'est pas les priorités number one, quoi.
Ouais.
Le priorité number one, en fait, c'est pas de faire de l'argent en déposant des brevets.
Mais parce que moi je suis macroniste.
Il y en a qui sont quand même bien contents, mon avis, au sein de l'IRCAM, dire non attendez, on a besoin d'argent.
Oui, mais le but d'un chercheur, c'est de faire avancer la recherche, c'est de tout partager et de tout mettre gratos. Voilà. Mmh.
Et là arrive ensuite la réalité.
Ouais, mais c'est en réalité.
Elle dit non, il y a quelqu'un, à l'IRCAM qui dit ah ça, ouais peut-être qu'on peut le mettre là.
Voilà, mais après il y a des gens qui essayent de, qui reprennent certaines idées évidemment. Il y a des choses qui se font à l'IRCAM qui où ils reprennent certaines idées, mais le but c'est vraiment pas ça. Le but c'est le but number one,
c'est le partage.
Voilà. C'est d'avancer dans un certain domaine et d'essayer de découvrir des choses et voilà, et puis d'avoir toute un, je sais pas, toute une atmosphère pour travailler dans sur certains.
Mais par exemple, si l'interface dont on parlait ou
avec le cercle,
ouais, par exemple.
Ouais, bah moi là, je vais tout foutre gratos, quoi.
Ok. Voilà. Mais ça va, enfin, imaginons demain il y a un Ableton qui se ramène sur le truc et fait oh putain j'aime bien ce.
Alors je précise quand même que ça c'est peut-être sur les bases, mais par exemple l'IRCAM produit ses propres plugins.
Oui, complètement.
Et qu'ils vendent en l'occurrence.
Ah d'accord.
Donc il y a des technologies aussi quand même.
Ouais, mais ce que je sais, c'est que c'est pas le...
qui sont commercialisées quand même.
D'accord. Exactement.
Je comprenais que c'était pas le but principal.
Ouais, exactement. Mais... Bah comme iVab par exemple, c'est maintenant une entreprise qui se base sur des choses qui ont fait l'IRCAM. Mais le but, enfin si on parle à des gens de l'IRCAM, le but c'est pas d'être riche en découvrant un nouveau truc, quoi. Le but du chercheur, c'est vraiment de faire avancer la science, quoi.
Non, bien sûr. Non, ouais. Mais je veux dire, si les recherches que vous faites permettent, par exemple, de remplacer le piano roll dans tous les séquenceurs du monde par un truc en cercle, ça serait quand même incroyable.
Ouais, mais ça ouais. Déjà, bon, déjà, ça.
Ça n'arrivera pas. Ouais, ça
mais enfin.
Pourquoi pas?
Ouais, mais moi, je trouve ça plus noble d'essayer de faire ça.
Mais moi, je pense qu'on peut avoir la noblesse du partage et en même temps s'en mettre plein les poches. Et franchement,
ça va pas toujours ensemble. Non, mais
il y a un sweet spot.
Et on est quand même dans un contexte où, là, pour être sérieux, où globalement, le monde de la recherche, l'université est plutôt mis à mal en général.
Par les politiques. Bah,
Et cette philosophie que tu mets en avant, même si elle se heurte certainement à une forme de réalité économique, etc., il faut la préserver à tout prix parce qu'elle est difficile.
Bah, il faut évidemment la préserver. Ce que je veux dire, c'est que on a des décideurs qui sont à des postes à responsabilité et qui malheureusement sont des demeurés, tu vois, et qui eux ne comprennent pas la beauté de la recherche, du partage.
C'est très important. En fait,
je pense qu'ils comprennent la beauté, mais ils voient juste que c'est pas rentable et ils veulent des sous dans les caisses.
Et je me dis, bah des fois, en fait, c'est bien d'apaiser un petit peu l'ogre en lui disant, tiens, vas-y, prends ton steak, là, fous-moi la paix, voilà, tu vois. Et donc de temps en temps de sortir un truc qui est commercialisable pour que justement le décideur nous foute la paix et dire ah ouais les mecs là-bas, je comprends rien à ce qu'ils font, mais de temps en temps ils vendent. Alors ok.
C'est ce vers quoi quand même tant l'IRCAM, tu vois.
Ils doivent vendre des trucs, ça. Mais ce que je sais, c'est que enfin moi les discussions que j'ai en tout cas au quotidien avec les autres, voilà, le but c'est pas de s'en mettre plein les poches, quoi.
C'est rassurant.
Mais c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
De toute façon, je m'engage solennellement je sais pas si ce sera dans ce podcast, mais globalement sur Monte-le-Son, donc le média sur lequel apparaît aussi ce podcast, on fera des choses avec l'IRCAM, on ira probablement à l'IRCAM, on présentera le travail de gens qui sont à l'IRCAM, parce que c'est méconnu et quand on est passionné de musique, on peut forcément y trouver son compte, il y a tellement de choses.
Ouais, complètement.
Je crois qu'on a fait un beau tour. En plus, c'était un peu dense comme épisode, donc on va s'arrêter là.
On
termine avec les recommandations.
Bien sûr.
J'espère qu'on a été clair, que c'est intéressant.
Ouais, mais je trouve que, enfin, moi j'ai compris, donc je me positionne toujours comme, tu vois,
l'auditeur lambda,
le public cible. Si moi j'ai capté, c'est que tout le monde a capté.
Sachant que l'auditeur lambda de DLT est déjà un auditeur de qualité, donc.
Oui, bien sûr.
On peut le dire.
Bien sûr, évidemment, on peut le dire, on peut le répéter même. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas avec le viewer YouTube moyen.
Non.
Hein. Bien sûr.
Encore moins le viewer Twitch de base, tu vois.
Ouais, on va régler ça.
Allez, je remets un petit coup.
On va régler ça hors caméra. Oui, c'est ça, oui.
Rocco, est-ce que tu as en tête ce que tu veux nous recommander? Un morceau que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs, à nos spectateurs?
Un morceau que j'ai envie de découvrir?
On peut commencer aussi avec Daz, si tu veux qu'on te laisse un peu le temps de trouver un morceau.
Non, mais je peux dire un truc, ouais.
Ah bah vas-y.
Ouais, je peux dire un truc.
C'est parti.
Moi, il y a un groupe australien que j'aime bien, qui s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard.
Ah, bien sûr.
Ouais.
Fantastique.
Donc voilà, ils ont fait 150 albums là actuellement. Et ils font un album, un ou deux albums par an, voire même peut-être plus des fois. Et moi j'adore ce groupe et j'adore un peu tout ce qu'ils font.
Ils voulaient pas à un moment sortir un album métal, ils l'ont sorti.
Ils l'ont sorti il y a longtemps. Mais ils font plus, on va dire, du rock. Du rock, mais sous toutes ses formes, quoi. Ils font vraiment de tout. Et il y a plusieurs albums. Ils ont fait un album où ils ont fait de la microtonalité.
Bien sûr.
Ouais.
Il y a Rattlesnake, un morceau voilà ça, de cet album qui est trop bien.
C'est quoi, Flying Microtonal Banana, je crois que c'est un truc comme ça, le nom de l'album.
Qui est très très cool.
Et celui-là, c'est ma recommandation.
Est-ce qu'il y a un morceau spécifiquement qu'on pourrait écouter?
Moi, souvent, j'écoute les albums, quoi. Donc, souvent,
okay.
C'est.
Ok. Ouais. Et tu sais quoi, ça te va si je décide pour toi.
Complètement.
On écoute Rattlesnake, j'adore ce morceau d'ailleurs. Et tu sais ce que c'est la microtonalité, Dan?
Oh là, non, j'ai peur de savoir ça.
Non, mais c'est pas si cool. Vas-y.
Le cercle, tu sais, tout à l'heure, on l'avait divisé en 12, là, parce qu'il y a 12 notes. Au piano, il y a 12 notes. En fait, le cercle, les 12 notes, on peut en avoir 13, par exemple. Ou 15, ou 16.
D'accord, mais
ou...
sur la base de quoi? Parce qu'une note, c'est une note.
Non, mais en fait, ça, c'est une convention occidentale. Ah. Et notamment avec les instruments qu'on a développés ici, que ce soit le piano, la guitare, etc. Il y a au-delà du demi-ton, il y a le quart de ton aussi, par exemple,
voilà,
pour beaucoup dans la musique orientale, etc. Et l'idée de la microtonalité, c'est des instruments, notamment, qui te permettent en fait de diviser encore un peu plus, tu vois, le demi-ton, de façon à pouvoir jouer des musiques d'ailleurs, des choses comme ça.
Mais du coup, c'est que des trucs avec des instruments exotiques.
Alors non, pas forcément, parce que typiquement, eux, ils jouent de la guitare, et en fait, il y a des guitares microtonales où en fait, le manche, au lieu d'être divisé de manière classique, il y a encore une division supplémentaire, des frettes supplémentaires.
D'accord.
Pour atteindre, par exemple, le quart de ton, typiquement.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait, King Lizard.
C'est pointu, hein, ce podcast.
Incroyable. Fallait pas l'inviter. Hein.
Allez, Rattlesnake, King Gizzard and the Lizard Wizard.
Là, faut écouter les demi-tons bizarres.
C'est ça. Une sonorité orientale.
On dirait une guitare désaccordée, mais ok, ouais.
Et en fait, le côté oriental, c'est le quart de ton, justement, que normalement t'as pas sur une guitare électrique et qu'eux, ils jouent justement avec des instruments spécifiques.
Bah, tu vois, c'est le genre de truc, c'est comme en mécanique, c'est à partir du moment où t'expliques que ça existe que tu commences à faire
un truc. Mais souvent, comme tu dis, ah ouais, ça fait un peu oriental, souvent t'as quand même ce truc.
Moi, j'aurais dit, ouais, ça fait un peu désaccordé, c'est chelou, mais ok. Non, mais très bien.
C'est quoi ta reco, toi, Daz?
Ah bah moi, c'est beaucoup plus classique.
Vas-y.
En ce moment, je joue à un petit jeu, un truc qui est sorti de manière confidentielle, qui s'appelle Starfield.
Petit jeu.
Et le jeu est ludiquement...
Jeu vidéo, bien sûr.
Ludiquement pété à de multiples niveaux, mais on aime bien y revenir. Mm-hmm. Et je pense qu'on aime bien y revenir parce que la partie musicale est quand même plutôt bien foutue, les potes.
Ok.
Donc, je veux juste écouter le main thème de Starfield. Parce que ça rattrape. On déteste le jeu, et puis après, on entend au détour d'une planète une mélopée comme ça, enivrante, et on se dit, ah, c'est quand même cool. Voilà le classique, là. Voilà.
Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Inon Zur.
Exactement.
Qui a fait ça. Et on se l'écoute. Into the Starfield.
C'est l'écran titre.
Tu t'y crois, là? Tu te vois? Tu rentres dans ton vaisseau spatial.
Ouais, mais ils utilisent tous les codes justement du truc de science-fiction et ça marche. Parce que c'est un jeu d'exploration spatiale. Donc tu passes beaucoup de temps en fait seul. Mm-hmm. Arpenter des planètes aussi.
Il y a des violons derrière toi.
Et ouais, en fait, de temps en temps, comme ça, alors que t'es en train de te dire, putain, c'est quand même le 150e caillou que je suis en train d'attaquer avec mon laser de minage, là, j'en ai un peu marre. Et d'un seul coup, on te balance trois violons et tu fais, ah, mais oui, j'adore ce jeu. Voilà.
Donc ça fonctionne très très bien, Starfield.
Eh bien écoute, allez écouter bah, la BO de Inonzo.
Oui, bah, jouer au jeu, hein.
Jouer au jeu carrément. Bah écoute. Ok, donc on avait King Gizzard and the Lizard Wizard. On a ensuite eu Inonzur. Allez écouter la BO ou jouer Starfield. À Starfield carrément.
Faites les deux.
Faites les deux. Jouez, oui. Écoutez, c'est magnifique.
C'est Bethesda, c'est. Ça sera. Le jeu sera fini dans 10 ans, mais jouez-y maintenant. On connaît Skyrim, voilà, c'est pareil.
Et j'enchaîne avec un artiste qui vient de sortir un album il y a quelques jours. Je crois que c'est sorti il n'y a même pas deux jours. J'ai pas eu le temps encore. D'écouter l'album, malheureusement. C'est One Hot Tricks Point Never, l'artiste, un artiste de musique électronique absolument fascinant, avec une déjà très belle discographie. Et je pense que, en tout cas, les premiers retours critiques du dernier album sont absolument fantastiques.
L'album qui s'appelle ?
Et l'album qui s'appelle Again.
Ok.
Et donc, je ne vais pas choisir un morceau de Again, parce que je ne le connais pas assez. Je vais prendre un morceau, en fait, que j'écoute depuis longtemps. Qui, je ne sais pas si c'est le plus représentatif, parce que One Hot Tricks Point Never, c'est une expérience sonore à chaque fois. C'est assez varié ce qu'il peut proposer. C'est juste à chaque fois un travail sur les textures, sur le son, sur ce que ça te fait ressentir. Parfois, ça peut être très, très mélodique et facile d'accès. Parfois, beaucoup plus brut et difficile. Là, c'est un morceau assez facile, en l'occurrence, qui s'appelle Crumb Country. C'est parti. C'est de la musique, je le dis souvent, mais je crois que c'est de la musique que j'aime aussi, qui s'écoute sur la longueur, qui, parce que, tu vois, ça met un peu de temps à évoluer, etc. Mais c'est absolument sublime.
Non, c'est très mignon.
Ouais, ça te plaît. Et globalement, c'est absolument génial, One Hot Tricks Point Never. Il a fait la BO d'un film qui était sorti sur Netflix, et la BO est fantastique, c'est Uncut Gem, je sais pas si tu vois, avec Adam Sandler, un film complètement, un film de malade, avec un rythme bizarre, oppressant. Le film est vraiment génial, et la musique est parfaitement adaptée, c'est du One Hot Tricks Point Never, justement. Bref, ça vaut le coup de se pencher sur cet artiste.
Bien, merci. Merci pour cette reco, Salman.
Eh bien, avec plaisir, on remercie d'autres gens aussi, Daz.
Bah, on remercie évidemment le staff de la bouclette. Iris et Sam. Sam qui a récupéré ses deux mains, bravo, bravo à lui. On remercie François.
Oui.
Qui va monter.
Notre monteur, merci voilà. François.
On remercie Paul.
Et d'ailleurs, juste big up à François parce que c'est avec François que j'ai découvert One Hot Tricks Point Never.
Et ça me surprend pas, beaucoup. Parce que j'allais dire, on dirait un peu du Enya.
Ah non.
Artiste fétiche.
Notre monteur est absolument un fan absolu d'Enya. Voilà. Et on remercie Thomas aussi, je sais pas si tu l'as dit.
Mais non, mais j'allais remercier Paul. J'allais remercier Paul.
Ah bah, Paul.
Merci beaucoup. Merci à vous. Parce que c'est ce genre d'invité qui permet aussi aux gens
de comprendre
que en fait on est à un certain niveau dans DLT
quand même.
Alors il va falloir qu'on redescende avec des trucs un peu populo pour
qui on pourrait inviter comme débile.
il va falloir parce que là on commence à placer la barre.
Moi attends, je sors la liste rap.
bah oui parce que là on va perdre tous les gars qu'on fait un BTS et on les a perdus. C'est terminé.
C'est pas le but.
Je sais bien, mais
ça j'ai complètement échoué.
Non, mais ça c'est pas ta faute à toi, c'est leur faute à eux. Donc voilà, faites des études.
On rigole bien sûr.
Évidemment.
On parle de rap régulièrement.
Et puis, puisqu'on est dans les remerciements, on remercie évidemment Thoman.
Oui, Thoman sans qui cette émission n'existerait pas. Ouais. Et ce serait quand même dommage.
Ça serait très dommage.
Surtout pour nous.
Oui,
on aurait plus de mal à manger. Mais...
Ouais, non, mais pour la culture, c'est important.
Pour la culture.
Pour la culture, c'est très important.
En vrai, quand on fait une émission comme on vient de la faire, franchement, on l'a fait pour la culture.
Ah bah, c'est 100% pour la culture.
C'est pas pour les vues.
C'est pas pour les vues, mais c'est pour la culture.
Très clairement. Quoique. Allez, vous êtes déjà nombreux à être abonnés à la chaîne Mathé Musique de Paul. Il fait un nombre de vues assez impressionnant. Il fait 300 000 vues. Il fait carrément plus que nous. Alors qu'il fait des trucs, tu vois, un peu de brutasse.
Ouais, ouais, mais... bah peut-être qu'on va choper une partie de son audience.
Peut-être. Oui.
Hein? Allez.
J'y crois.
Les viewers de Paul, n'hésitez pas à vous abonner chez nous.
Et vice versa.
Oui, vice versa, bien sûr. Mais les nôtres, ils comprendront que dalle. Mais faites-le dans l'autre sens aussi, bien sûr.
Oui, Mathé Musique, allez absolument vous abonner. C'est bravo pour ce travail.
Ah, merci beaucoup. Merci à vous.
Et c'était un plaisir.
Un grand merci. On se retrouve de toute façon, nous, dans 15 semaines. Jours, évidemment, dans deux semaines d'Az. Je sais pas qui on reçoit dans 15 jours.
Ah.
On verra.
Peut-être le Saint Graal que tu as réussi à...
Ah, et il y a deux trucs qui sont débloqués récemment. Après, tu vois, faut jamais...
Je touche du bois de cette table.
Mais ça peut se faire, hein. Bref, pour le savoir, rendez-vous dans 15 jours.